7h30.
7h, 9h.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 12 novembre et ils se sont livrés un duel sans merci jusqu'à l'arrivée. Francis Joyon et François Gabart ont passé la ligne au coude à coude à seulement 7 minutes d'écart. Finalement, c'est Joyon qui l'emporte. 7 jours, 14h, 21 minutes pour cette route du Rhum et cette nuit complètement dingue. Le suspense jusqu'au bout. On vous fait vivre cette épopée dantesque dès le journal de 7h et puis avec Francis Joyon en personne. Il sera mon invité à 7h45. 7h20, on vous emmène en prison, pas pour parler de drogue ni de violence ou d'évasion, non, pour vous dire que certains détenus sont férus de lecture et d'ailleurs certains ont intégré le jury du Goncourt des lycéens. Encore une semaine très chargée pour le gouvernement, à 5 jours du blocage des routes, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15. C'est fini le week-end, vous êtes un peu chafouin, allez vous inquiétez pas, on vous accompagne jusqu'à 9h.
Excellent début de semaine à tous, à l'écoute d'Europe 1. Il est 7h, bon réveil. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve.
Et à 7h, le journal est présenté par Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Ce suspense, comme jamais la route du Rhum n'en avait connu depuis 40 ans, vous en parliez Pierre. Finalement, Francis Joyon l'emporte de quelques minutes devant François Gabart. On sera en direct avec Corinne Boulot depuis Pointe-à-Pitre. Les personnels de l'éducation appelés à la grève ce lundi, tous les syndicats mobilisés contre les suppressions de postes. Et puis on l'avait surnommé le bébé du coffre, Serena, 2 ans, découverte en 2013 dans le coffre de la voiture de sa mère. Personne ne connaissait son existence. Ouverture du procès aujourd'hui à Tulle. On ne risque pas d'oublier cette route du Rhum ni l'incroyable scénario qui s'est joué ces dernières heures. François Gabart, qui a pris la tête de la flotte pendant quasiment toute la course, pouvait légitimement prétendre à la victoire et pourtant, il s'est fait doubler par Francis Joyon qui remporte donc cette transat à Pointe-à-Pitre où on retrouve notre envoyée spéciale Corinne Boulou. Corinne, les deux navigateurs, on entend les applaudissements, ont vraiment joué avec nos nerfs jusqu'à la dernière minute.
Oui Hélène, ce sont les nerfs des deux navigateurs surtout qui ont été mis à rude épreuve, leurs traits tirés, leurs yeux fatigués trahissaient tout à l'heure une fois leur maxi trimaran amarré au ponton d'honneur, l'engagement qu'ils ont dû mettre dans ce sprint final qui s'est terminé dans un mouchoir de poche. 20 minutes avant l'arrivée, Francis Joyon et François Gabart étaient même bord à bord, un spectacle à peine croyable au terme de 6000 km de traversée en solitaire. Le suspense s'est prolongé jusqu'au bout. Imaginez 7 minutes séparaient les duettistes dans la nuit guadeloupéenne et pour Francis Joyon, dont c'était la 7e participation, le soulagement d'inscrire son nom au palmarès, de quoi savourer.
C'est vrai que quand on a une victoire après avoir passé de nombreuses éditions, on la savoure d'autant plus. Ben, je m'en suis rendu compte 1 minute 30 avant l'arrivée, pratiquement jusqu'au moment de passer la ligne, j'avais l'impression qu'il allait me repasser parce qu'il allait 2-3 nœuds plus vite que moi en fait. Ça s'est vraiment fait sur la remontée du canal des Saintes. Et après, il arrivait comme un avion, je voyais sa position. C'est vrai que ça a été un moment de grande inquiétude. Et du coup, c'est vrai que j'étais content de réussir à arriver avant lui. J'avais l'impression de rééditer un petit peu l'arrivée de Mike Birch, pour qui j'ai beaucoup d'admiration.
Ouais, c'est vrai qu'il y a 40 ans, la première édition s'était soldée par la victoire de Mike Birch pour 98 secondes. Francis Joyon et François Gabart ont écrit en tout cas cette nuit une nouvelle page légendaire dans l'histoire de la Transat.
Corinne Boulou en direct de Pointe-à-Pitre pour Europe 1.
Et si tout va bien, nous serons en ligne avec le vainqueur donc de cette route du Rhum, Francis Joyon, à 7h45.
Europe 1, il est 7h03.
Avis de tempête sur l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer affronte sa première grève.
Oui, que ce soit dans les écoles, les collèges ou les lycées, les cours pourraient être perturbés par ce mouvement à l'appel de l'ensemble des syndicats, une première depuis 2011 pour protester notamment contre la baisse des effectifs, 2600 postes de moins dans le budget de l'an prochain qui sera discuté à partir de demain. Écoutez Stéphane Crochet, il est secrétaire général du syndicat SE-UNSA.
À la rentrée prochaine, il va falloir faire avec 2600 postes en moins dans le second degré en accueillant beaucoup plus d'élèves. Au-delà, pour les années futures, alors qu'il va y avoir de plus en plus de suppressions de postes de fonctionnaires à l'État, ça annonce de mauvaises nouvelles pour toute l'école. Au-delà de lignes budgétaires, c'est bien plus facile de détruire que de construire. Les 60 000 créations d'emplois sous François Hollande, on n'a pas complètement réussi à les mettre en œuvre parce qu'il est difficile de recruter quand on vient de passer des années à détruire. Et donc, on ne veut absolument pas renouer avec les mêmes logiques. Donc, c'est une profession qui dit stop, elle ne peut pas faire toujours mieux avec toujours moins. Il faut lui laisser le temps de travailler, lui en donner les moyens.
Un propos recueilli par Virginie Salmen. Des manifestations sont prévues dans toute la France, notamment à Paris à 14h de Luxembourg au ministère rue de Grenelle. Et puis, révélation du journal Le Parisien ce matin sur la situation financière du syndicat Force Ouvrière. L'an dernier, les membres du bureau confédéral ont dépensé près de 400 000 euros de notes de frais, soit environ 30 000 chacun en un an.
Le forum sur la paix va se poursuivre à la Villette jusqu'à demain, mais sans les chefs d'État et de gouvernement.
Hier, en l'absence remarquée de Donald Trump, ils étaient réunis autour d'Emmanuel Macron, tout comme Angela Merkel. Le président a dit son inquiétude sur le maintien de la paix, y compris en Europe. Adrien Beck.
Célébrer la paix à l'Arc de Triomphe, puis s'inquiéter de sa fragilité à la Villette. 84 chefs d'État qui commémorent la fin de la guerre 14-18 et l'inquiétude d'Emmanuel Macron en ouverture du forum. Malgré l'image historique, la paix n'est pas acquise.
Ce qui demeure incertain pour l'avenir, c'est la façon dont sera interprétée cette image. Sera-t-elle le symbole éclatant d'une paix durable entre les nations ou au contraire la photographie d'un dernier moment d'unité ? Avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre.
Avec un mot d'ordre, la coopération entre les États, contraire du repli sur soi, et ce plaidoyer d'Angela Merkel pour l'ONU.
Dans le quotidien, l'ONU est en deçà de ses idéaux. Mais est-ce que cela permet de dire que sans les Nations Unies, la situation serait meilleure ? Non, non. Il est facile de détruire une institution, il est incroyablement difficile d'en reconstruire une.
Allusion à Donald Trump et ses positions isolationnistes. Au même moment, le président américain faisait à nouveau bande à part avec un hommage aux soldats américains au cimetière de Suresnes avant de s'envoler direction Washington.
Adrien Beck, Emmanuel Macron devait rencontrer aujourd'hui Benjamin Netanyahou, mais le premier ministre israélien est rentré d'urgence dans son pays après l'opération de ses forces spéciales hier dans la bande de Gaza. Bilan, 6 combattants du Hamas tués ainsi qu'un soldat israélien. Opération qui risque de raviver les tensions dans la région. Et puis en Californie, une trentaine de morts dans les incendies. Bilan le plus meurtrier depuis 1933. Des dizaines de milliers d'hectares sont partis en fumée.
Europe 1.
Dans un instant, la suite de votre journal, Hélène Zélani, avec le procès d'un déni de grossesse. Souvenez-vous de cette histoire, une mère qui avait caché sa fille dans le coffre de sa voiture pendant près de 2 ans. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, économisons-la.
Il est 7h08, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
La suite du journal Hélène Zélani et cette affaire qui arrive en procès devant les assises de Corrèze à partir d'aujourd'hui.
On l'avait appelé le bébé du coffre en 2013. On avait découvert avec horreur l'histoire de la petite Serena, cachée de tous depuis sa naissance. Elle n'était jamais sortie du coffre d'une voiture. La mère risque jusqu'à 20 ans de prison. Salomé Legrand.
Elle l'a considérée comme une chose, dit-elle, jusqu'à son premier sourire à 18 mois. La mère de Serena a pourtant continué à élever ce bébé à l'insu de tous, dans le coffre de sa voiture. C'est là que l'enfant est découverte par un garagiste, posé nu au milieu de l'ange souillé, entouré de petits jouets, dans une odeur pestilentielle. Serena a alors 2 ans, elle ne sait pas tenir sa tête et souffre de malnutrition. Hormis 2 caissières au supermarché, personne n'avait remarqué la 4e grossesse de Rosa. Aucun voisin, pas même son mari, qui a d'ailleurs bénéficié d'un non-lieu dans ce dossier. D'après un expert gynécologue, elle aurait fait un déni de grossesse absolu suivi d'un déni d'enfant. Ses 3 grossesses précédentes avaient déjà été compliquées, mais cette femme était décrite comme une mère aimante pour ses 3 aînés. Devant les enquêteurs, elle a reconnu l'essentiel des maltraitances sur Serena, qui gardera des séquelles à vie.
Salomé Legrand, une enfant qui a aujourd'hui 7 ans et qui a été placée dans une famille d'accueil, elle ne parle pas et ne supporte pas d'être enfermée.
Cette expérience à Quimper maintenant, la ville éteint les lumières.
Oui, cet hiver, l'éclairage public est considérablement réduit, histoire de diminuer la facture énergétique, mais aussi de réduire la pollution lumineuse. Pauline Jacquot.
C'est une économie de 80 000 euros par an, 15% du montant de la facture annuelle d'électricité de Quimper. Entre 1h et 6h du matin, dans une quarantaine de quartiers de la ville, tous les lampadaires sont désormais éteints. Une réduction de la dépense publique alliée à une mesure environnementale, selon Guillaume Mingui, adjoint au maire chargé de l'urbanisme.
On a 3000 points lumineux qui vont être éteints. Donc en termes de points lumineux, vous voyez, on est à 1/3. On sort de l'expérimentation de l'extinction de l'éclairage public. Les quartiers qui reçoivent une activité nocturne importante, le centre-ville et les centres de quartier.
Dans les quartiers pavillonnaires, certains habitants craignent des accidents de voiture à cause de l'obscurité. Les dernières études hors agglomération montrent plutôt l'inverse, répond Christophe Ramon de la prévention routière.
Le fait que les conducteurs voient moins bien sur la route, les conducteurs ralentissent. Donc après l'extinction des feux, on n'observe pas plus d'accidents concrètement qu'avant, lorsque les routes étaient éclairées, du fait du ralentissement de la circulation.
À Quimper, l'expérimentation doit durer 6 mois et s'étendre après à toute la ville en cas de succès.
Pauline Jacouf.
Merci, c'était le journal d'Hélène Zellani.
La matinale d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Et il est 7h10, on retrouve Nicolas Barré, Pierre, pour l'édito éco.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Pierre.
Directeur de la rédaction du journal Les Échos. Alors d'un côté, on a les automobilistes, on le sait, qui s'apprêtent à manifester samedi prochain contre la hausse du prix de l'essence. Et de l'autre, les producteurs de pétrole qui, eux, s'inquiètent de la baisse du prix du baril. On s'y perd là.
Oui, c'est le paradoxe. Depuis le début de la grogne sur les prix de l'essence, effectivement, les prix du baril ont chuté de 20%. Et les pays producteurs craignent que la chute continue. L'Arabie Saoudite vient de décider de baisser sa production, justement pour essayer de faire remonter les cours. Alors est-ce que ça suffira? Ça n'est pas garanti parce que plusieurs pays non membres de l'OPEP comme les États-Unis et la Russie ont augmenté leur production dans le même temps. C'est en partie pour cette raison que les cours ont baissé. Mais enfin, les efforts de l'OPEP devraient tout de même finir par payer. Et certains spécialistes du marché prévoient un redressement des cours du pétrole dans les mois qui viennent. Certains évoquent même la perspective d'un baril à 100 dollars contre 70 aujourd'hui.
Ce qui évidemment n'arrange pas le gouvernement qui veut alléger la facture à la pompe.
Et voilà, alors le gouvernement n'a évidemment aucune prise sur le marché international du pétrole, sauf que en promettant des mesures pour alléger la facture...
Le prix, c'est pas Bibi, avait dit
voilà,
Macron.
Exactement, ouais. Exactement. Sauf qu'en promettant des mesures pour alléger la facture, eh bien, il fait croire qu'il dispose d'un levier important sur les prix, ce qui n'est pas le cas. Alors, deux types de mesures quand même sont soumises aujourd'hui à l'arbitrage du Premier ministre, une aide renforcée à la conversion pour acheter des voitures moins polluantes, aide qui pourrait être ciblée sur les très gros rouleurs, par exemple les infirmières à domicile en province qui roulent beaucoup, et puis l'augmentation du chèque énergie pour aider les ménages modestes à se chauffer. Au total, on parle de mesures de l'ordre de 500 millions d'euros, c'est considérable, sauf que l'État ne les a pas, il les prendra dans la poche d'autres contribuables, il n'y a pas de finance magique. La réalité, c'est qu'une énergie fossile comme le pétrole coûte cher, coûtera plus cher à l'avenir, c'est le message des producteurs aujourd'hui, et que les aides doivent servir à s'en détacher plus qu'à réduire la facture.
Et on verra ce qu'en pense Benjamin Griveaux, qui sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15. Merci Nicolas Barré, l'édito Éco, tous les jours à 7h10 sur Europe 1.
Et il est 7h12, l'heure de retrouver Carole Ferry, Pierre, quelque part en France.
Oui, et on va parler d'un autre carburant, elle est chaque jour sur le terrain. Bonjour Carole.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Vous êtes où ce matin?
Eh bien, je suis face à des vignes avec de magnifiques couleurs d'automne, le soleil qui se lève à l'horizon. Et pas n'importe quelle vigne, hein, les vignes de Champagne. Je vous emmène dans une petite entreprise familiale, le domaine Alfred Tritant à Bouzy. Vous savez que quasiment la moitié des ventes se fait sur la fin de l'année. Alors à 6 semaines de Noël, et oui, 6 semaines déjà, eh bien ici, toute la famille met la main à la pâte. Exemple avec cette séance d'envoi des bons de commande. Autour de la table du salon, le père Jean-Luc, sa mère Dominique, ses 3 enfants et son épouse Mathilde.
Qui c'est qui ferme les enveloppes?
Moi. Faut fermer les enveloppes.
Et mamie, elle colle les termes, voilà. Le travail à la chaîne est plus efficace, donc chaque poste est un peu pensé pour qu'on aille le plus vite possible.
Toi Thibaut, t'es l'aîné de la famille, t'as 11 ans et demi. Qu'est-ce que t'en penses de cette période?
On travaille beaucoup, on est souvent en train de faire beaucoup de trucs. Mais ce qui me plaît, c'est qu'on partage quand même un moment en famille. C'est drôle, on discute, c'est la famille et le plaisir, donc c'est vraiment bien.
On a toujours eu cet esprit-là à la maison. Toute petite, quand j'avais 6 ans, on travaillait tous ensemble.
C'est le problème des entreprises à taille humaine, c'est que vous avez vu 100% des effectifs de l'entreprise.
Donc si je comprends bien, Carole, il n'y a aucun salarié, ils font tout eux-mêmes.
Exactement, il n'y a que pendant les vendanges qu'ils font appel à des saisonniers. Le reste du temps, c'est en famille. Alors sous le salon, vous avez une cave voûtée où ont lieu les dégustations. Il y en a beaucoup en ce moment, les gens viennent faire le plein pour les fêtes. Et pour les expéditions, eh bien, c'est la pièce juste à côté.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, Dominique?
De mettre en carton.
Votre fils, il met les étiquettes.
Voilà. Je reprends la bouteille et je la mets dans le carton.
75 ans, vous continuez à être passionné?
Ah, tout à fait.
Puis au-dessus, on a même un gîte qui est fermé le temps des vendanges parce qu'on travaille encore à l'ancienne, on loge et on nourrit notre personnel.
Qui dîne avec vous aussi?
Ah oui, on loge, on nourrit, donc le soir, c'est pas rare que toute la famille soit autour de la table, plus l'équipe de vendangeurs, donc on est une bonne vingtaine autour de la table, oui.
Carole, ça fait combien d'années qu'on travaille en famille, comme ça, dans la famille Triton?
Depuis 1930. Ah, déjà trois générations qui se succèdent. Et je peux vous dire, Pierre, que du haut de ses 11 ans et demi, Thibaut, que vous avez entendu au début, hein, envisage déjà très sérieusement de succéder à son père. On peut dire que la relève semble assurée.
Eh ben, il a bien raison, parce que ça a l'air très très bien comme business. Merci beaucoup, Carole. Au milieu des vignes de Champagne, à Bouzy, dans la Marne. J'espère que vous avez fait des provisions pour toute la rédaction, oui. Ma petite Carole.
Je vous rapporte tout ça.
Tous les jours à 7h12, Carole Ferry ou Martin Fenot, selon les semaines.
Europe 1. Il est 7h15, restez avec nous sur Europe 1. À suivre, Pierre de Villeneuve.
Europe 1 en immersion vous emmène ce matin derrière les barreaux d'une prison à la rencontre de détenus qui ont intégré le jury du Goncourt des lycéens, se réinsérer par la lecture et l'écriture. C'est une enquête à suivre dans Europe 1 va plus loin.
7h, 9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Il est 7h19, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Pierre de Villeneuve.
Et un incroyable final dans la route du Rhum. Francis Joyon l'emporte avec seulement 7 minutes d'avance sur François Gabart. Francis Joyon, qui sera mon invité dans une demi-heure. L'éducation nationale en grève, tous les syndicats appellent à la mobilisation dans les écoles, les collèges, les lycées pour protester contre les suppressions de postes. Terrible bilan des feux de forêt en Californie, une trentaine de morts, plus de 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer.
Europe 1. Pierre de Villeneuve, Europe 1 va plus loin, nous emmène ce matin derrière les murs d'une prison.
Et on va voir que l'écriture est un formidable vecteur de réinsertion pour les détenus. Pour en parler, on vous emmène ce matin au centre de détention de Salon de Provence, à la rencontre d'une douzaine de détenus férus de lecture. Ils ont entre 22 et 50 ans, certains passent le bac, d'autres un CAP. Certains d'entre eux n'avaient jamais ouvert un roman et c'est une première en 30 ans d'existence. Certains de ces prisonniers ont intégré le jury du Goncourt des lycéens. Dans leurs mains, les 15 livres présélectionnés pour le prix, ils doivent aujourd'hui en retenir 3. Notre correspondante à Marseille, Nathalie Chevance, a pu les rencontrer derrière les barreaux lors d'un cours de français.
Derrière les barreaux, dans le bruit des claquements de portes de la prison, on entend parfois des détenus parler littérature. Au bout d'un couloir, il y a classe de français. Changement d'univers, ils sont une dizaine de prisonniers. Devant eux, les 15 livres sélectionnés pour le Goncourt des lycéens. Marvin, 23 ans, n'avait jamais lu de roman.
Oh, le prix Goncourt, tout ça, je ne connaissais pas. Moi, je n'avais jamais lu de livre auparavant, et ça m'a plu. Ça m'a surpris moi-même. Moi, j'ai lu David Job, Frère d'âme. C'est une histoire d'amitié forte, très très forte. Plus de la guerre, ça raconte un peu la Première Guerre mondiale. Je me suis plongé dedans. Je découvre tout ça en prison. C'est peut-être qu'à l'extérieur, je l'aurais jamais découvert, j'aurais jamais su.
C'est pas facile de lire en prison.
C'est compliqué. Beaucoup de bruit, c'est les clés, la musique, les cris aux fenêtres, le bordel. Mais on y arrive quand même.
Première règle, éteindre la télé continuellement allumée, se mettre dans une bulle et s'évader grâce aux mots. Lire pour chasser l'ennui. Pour ce Goncourt des lycéens, Rémi, 35 ans, a dévoré 6 livres, seul, dans sa cellule. Frappé par la dureté de certaines histoires.
Ce sont des thèmes qui sont de notre temps, violence faite aux femmes, assez trash, qui sont un peu compliqués. Oui. J'arrive à occulter tout ce qu'il y a autour, en fait, à me mettre une carapace, à m'enfermer un peu dans ma bulle et à me concentrer sur ma lecture et à penser autre chose.
Et dans ce groupe de détenus devenus accros à la lecture, il y a le doyen, Laurent, la cinquantaine. Sa fierté est arrivée à inciter les plus jeunes à ouvrir des livres et en débattre ensuite.
Dans le cadre de la prison, j'avais aussi envie de donner envie aux autres de suivre mon exemple, quoi, de dire, de prendre un livre, et oui, je suis capable d'en lire un et de le faire et de le commenter. Créer de l'émulation et instaurer une bonne dynamique après de groupe.
Une expérience qui n'aurait pas été possible sans la volonté d'Armel Cousin, prof de lettres au centre de détention.
Dès que deux ou trois avaient lu le même livre, je leur ai proposé de se regrouper, de réfléchir ensemble. Je leur ai donné un carnet de lecteurs avec des outils d'analyse littéraire du français. L'objectif, c'est de faire du français. Et donc, ils ont lu. Donc, c'est une super expérience.
Échanger, réfléchir, ouvrir son esprit. Ce Goncourt des lycéens, les détenus le vivent comme un challenge, une expérience littéraire entre les murs qu'ils n'oublieront jamais.
Reportage de Nathalie Chevance au centre de détention de Salon de Provence. Le lauréat du Goncourt des lycéens sera dévoilé ce jeudi. Et pour prolonger ce reportage, on accueille René Frény. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes écrivain, vous vivez à Marseille, vous animez justement des ateliers d'écriture dans les prisons du sud de la France, au Baumettes, à la prison pour mineurs de Luynes. Vous avez écouté ce reportage. Expliquez-nous qu'est-ce que l'écriture apporte aux détenus.
Les deux détenus qui ont parlé ont tout dit, c'est-à-dire que ils ont tout raté. Ils ont raté leur scolarité, l'éducation, la famille, et c'est pour ça qu'ils sont en prison. Ils ont tout raté. Et s'ils ne lisent pas, s'ils ne pensent pas, au bout de quelques années, ils vont penser comme le mur qu'ils regardent, ou les barreaux. On pense comme le mirador au bout de quelques années.
Et vous y prenez comment? Quelles sont les méthodes?
Ben, les méthodes, c'est d'abord la confiance. Moi, j'arrive au Beaumettre, à la prison de Salon, où je suis allé pendant 5 ans. On boit un café, on parle de foot, on parle de femmes. Bon, il faut une grande confiance. Une fois qu'ils ont confiance en moi, je leur lis quelques articles, un début de roman, et puis ils s'aperçoivent que sous chaque mot, il y a une odeur. Mon but, c'est de faire entrer le monde extérieur, à travers les barreaux. Mmh. C'est-à-dire,
parce
ils
que vous aussi, vous avez découvert la prison, vous avez découvert la lecture en prison.
Moi, j'ai découvert pendant 6 mois de prison militaire, j'avais déserté, et un aumônier m'a apporté des livres. Comme eux, j'ai découvert ce monde extérieur qui passait à travers les barreaux, dont j'avais des odeurs, des couleurs, un parfum de femme. Je me suis inventé une histoire d'amour, je suis tombé amoureux, et je me suis rendu compte qu'en sortant de prison, j'étais beaucoup moins abîmé que ceux qui ne lisent pas.
Une belle histoire. Merci beaucoup, René Frény, d'avoir partagé ce moment avec nous. La lecture, l'écriture, moyen d'évasion et intellectuel pour les détenus. Europe 1 va plus loin tous les matins à 7h20.
Europe 1, il est 7h24.
Et à suivre, c'est l'innovation avec Anissé Mbida, une invention qui va ravir les parents. Un robot qui range la chambre
bien,
de vos enfants.
Quelle bonne idée.
J'en veux un. À tout de suite.
La matinale d'Europe 1.
Pierre de Villeneau, FR.
Il est 7h27.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anissé Mbida, Pierre de Villeneuve.
Bonjour Anissé.
Bonjour Pierre.
On connaît les robots aspirateurs. Maintenant, il y a des robots qui rangent. Ils sont même capables de ranger le bazar d'une chambre d'enfant.
Oui, c'est assez incroyable. Alors, il faut imaginer une espèce de R2-D2 avec un bras articulé qui va arpenter la chambre et s'arrêter devant tout ce qui traîne. Je sais pas, un chausson, un jouet, un livre. Il va reconnaître les objets par reconnaissance artificielle, de vision artificielle, les ramasser et les ranger comme nous, à la bonne place. Donc le livre dans la bibliothèque, le jouet dans le coffre et le chausson bien droit à côté de son copain.
Mais comment il sait pour bien ranger ?
Eh ben, il faut d'abord l'entraîner, ranger la chambre avec lui au moins une fois pour lui montrer la bonne place de chaque objet. Mmh. Mais rien n'empêche de définir un endroit fourre-tout, vous savez, celui où on finit par retrouver tout ce qu'on croyait perdu dans la maison.
Vous l'avez essayé et ça marche.
Alors, il y a une démonstration, globalement, ça marche assez bien. Le seul problème, c'est qu'il faut pas être pressé, parce que il se déplace, mais alors vraiment au ralenti. Ça peut prendre des heures à ranger la chambre. Ça sortira en fin d'année prochaine. On espère
qu'elle est déjà en bazar.
Qu'ils vont l'accélérer, leur petit.
Qu'il a rangé.
C'est Preferred Networks, une start-up japonaise qui le fabrique.
Merci, mais j'en veux un, Anissé, vous m'en commandez. Bah deux alors. Innovation tous les jours à 7h25.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur même des territoires pour faire progresser la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr.
Dans une minute, le journal de Céline Kallmann.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abri de piscine.
Et tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Pierre.
Laurent, comment ça se passe ?
Ah, elle ne me plaît pas cette perturbation, elle m'énerve.
Pourquoi ?
Parce que d'abord elle ondule, elle avance très lentement.
Comme le robot.
Ouais, oui, comme le robot. De sorte que j'ai bien peur qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous aient de la pluie toute la journée. Je pense à Paris, où il risque de pleuvoir pratiquement tout le temps. Il va falloir faire avec. La Picardie est mal placée. Il pleuvra surtout le matin sur les Ardennes, sur l'Eure, la Sarthe, le Poitou-Charente et la Normandie. Ensuite, ça ira un petit peu mieux. Sur le Limousin, le Centre, la Champagne et la Lorraine, ce sont des pluies cet après-midi parce qu'elle aura quand même glissé un tout petit peu. Et puis sur le Dijonais, l'Auvergne et les Vosges, c'est un temps orageux. Enfin, sur le Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et la Franche-Comté, là, nous aurons un temps d'éclaircie et près de la Méditerranée, des pluies cévenoles. Bon, allez, on va essayer de la pousser. Aidez-moi.
Poussons.
14 et 22 degrés, c'est la température maximale.
Laurent Cabrol, prochain point météo, juste avant 8h.
À suivre, Pierre de Villeneuve.
Il me le confessait dès vendredi sur Europe 1. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a reconnu officiellement hier lors d'une conférence de presse que ses services n'en ont pas assez fait au sujet de l'habitat insalubre. Coup de gueule dans 10 minutes de Jean-Michel Apathy.
Nous sommes le lundi 12 novembre, il est 7h30.
7h, 9h.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Et à 7h30, le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. L'inquiétude des agriculteurs face à la sécheresse, Europe 1 vous révèle ce matin que 75 départements vont déposer d'ici ce soir, c'est la date butoir, un dossier de reconnaissance de calamité agricole. Selon la FNSEA, le coût des dommages causés par la sécheresse représente 250 à 300 millions d'euros de pertes. Mais pour être indemnisé, ce n'est pas évident car les agriculteurs doivent remplir des critères très stricts. Écoutez Luc Messard, il est agriculteur et éleveur dans l'Oise, vice-président de la FNSEA.
Trois quarts des départements français, plus de 75 départements, sont aujourd'hui en train de faire une demande de reconnaissance de calamité agricole due à une sécheresse qui a duré très longtemps, puisque depuis le 10 juin jusqu'au 1er novembre, il n'a pas plu dans la majorité de ces départements avec des grosses pertes sur la partie prairie, mais aussi maïs, récolte de betteraves. et puis qui a déjà beaucoup imputé la future récolte 2019 avec des pertes en colza. Il n'y a pas eu de rattrapage en automne. Les températures fortes ont desséché complètement les sols et qu'aujourd'hui on a un vrai manque de fourrage et de disponibilité de fourrage.
Luc Smessard avec Jean-Jacques Herry. Il avait tenté cette fois la route du Rhum sans jamais la gagner. Cette fois-ci, c'est la bonne pour Francis Joyon qui a battu sur le fil cette nuit François Gabart avec à la qu'un record 7 jours, 14h et 21 minutes.
Ouais, sur le fil, hein. Francis Joyon qui sera mon invité en direct de Pointe-à-Pitre dans quelques minutes.
C'est une première depuis 7 ans. Tous les syndicats dans l'éducation nationale sont mobilisés pour une journée d'action aujourd'hui contre la suppression de plus de 2600 postes à la rentrée prochaine. Un jeune de 16 ans mis en examen pour violence aggravée. Il est soupçonné d'avoir frappé et étranglé son prof de maths vendredi à Beson dans le Val d'Oise. Le lycéen a été placé sous contrôle judiciaire. Le professeur, lui, s'est vu prescrire 2 jours d'ITT.
À la une de l'actualité, le procès de cette maman qui avait enfermé régulièrement sa toute petite fille dans le coffre de sa voiture pendant 2 ans.
Une femme de 50 ans jugée devant la cour d'assises de Corrèze pour violence suivie de mutilations et d'infirmités permanentes. La petite fille âgée de presque 7 ans aujourd'hui ne parle pas et souffre d'un symptôme autistique. Salomé Legrand, l'un des garagistes qui a découvert la fillette dans le coffre en octobre 2015. Souvenir traumatisant pour Guillaume.
Dès qu'on a rentré le véhicule dans l'atelier, on s'est aperçu qu'il y avait un bruit dans le coffre. Ça grattait, ça gémissait. J'ai demandé à la dame si elle avait quelque chose dans le coffre, un animal ou autre. Elle me dit non, c'était un des jouets de mes enfants qui a dû s'allumer. Ben, ça a fait tilt de suite. Hein. Dans les sièges arrière, j'ai vu des sièges auto. Je me suis dit, elle a peut-être puni un de ses enfants. On a ouvert le coffre et on a découvert cette petite. On voit un enfant complètement nu, la peau sur les os, blanc, qui tenait pas sa tête, posé sur des sacs poubelles, avec ses excréments, dans un état difficile à décrire. On voudrait avoir des nouvelles, savoir comment elle va et comment elle a évolué.
Un propos recueilli par Salomé Legrand.
Autre procès, celui de Georges Tron et de son adjointe Brigitte Gruel, dernière semaine.
Oui, c'est la dernière semaine devant les assises de Seine-Saint-Denis. Le verdict est attendu jeudi et à partir de ce matin, ils vont pouvoir s'expliquer pour la première fois à la barre. Brigitte Gruel sera la première. Écoutez son avocat Franck Nathalie.
Ma cliente a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés concernant des faits à caractère sexuel depuis le début de cette affaire. Et vous avez pu observer tout au long de cette audience que nous avons pu faire valoir des moyens de défense extrêmement sérieux qui contredisent formellement les allégations qui sont formées à l'encontre de nos clients.
Pourquoi mêler et s'attaquer à votre cliente dans tout ça en réalité ?
Écoutez, c'est peut-être la question qu'elle se pose depuis le départ, mais peut-être qu'il y a de la jalousie, il y a aussi du ressentiment personnel, du ressentiment professionnel. Et je crois qu'effectivement, c'était une manière aussi de s'en prendre à M. Tron que d'attaquer Mme Gruel.
Maître Franck Nathalie avec Guillaume Bier. Un dramatique incendie cette nuit à Sevran, en Seine-Saint-Denis. On compte une 20aine de blessés, dont 5 enfants. 3 habitants sont grièvement touchés. Le feu s'est déclaré dans la cage d'escalier vers 4h du matin.
Une semaine après l'effondrement de 2 immeubles dans le centre de Marseille, près de 400 personnes ont été prises en charge.
Ils sont relogés dans des hôtels ou des appartements aux frais de la mairie. On n'en a pas assez fait, a reconnu hier Jean-Claude Gaudin. Pour l'instant, ces habitants n'ont pas le droit de retourner chez eux, le temps que les experts posent un diagnostic sur leur logement et ça pourrait prendre du temps. Écoutez Laurent, il habite juste en face des 2 immeubles détruits.
Je pense surtout qu'on retrouvera pas notre appartement. Enfin, nous, on était en face. Je pense que toute la rue va être frappée d'alignement, quoi. On sent bien aussi que tous les interlocuteurs sont un peu démunis. Tout le monde gère la situation d'urgence. Moi, ça fait 2 ans et demi que je vis dans cette rue. J'adore Marseille. J'adore vivre dans un quartier mixte. Mais je vois bien qu'il n'y a plus d'État dans ma rue. Il n'y a plus de mairie. Il n'y a plus rien. On est laissé totalement à l'abandon. Les policiers ne passent quasiment jamais. C'est une enclave. Il y a des endroits à Marseille comme ça, des quartiers en plein centre-ville où on se demande où on est. C'est infernal, quoi. Mais j'ai jamais vu un fonctionnement comme ça, quoi.
Laurent, au micro Europe 1 de Nathalie Chevance. Un livre particulièrement attendu aux États-Unis, celui des mémoires de Michelle Obama, publié également demain en France chez Fayard. L'ancienne première dame y critique vivement Donald Trump. Elle a donné une interview sur ABC hier soir.
Être le commandant en chef, c'est un boulot très dur. Il faut être discipliné, vous devez lire, avoir des connaissances, connaître l'histoire, faire attention avec vos paroles. Mais ce sont les électeurs qui prennent ces décisions. Et une fois qu'ils ont parlé, il faut vivre avec.
Michelle Obama sur ABC.
Et notez que Sophie de Closet, la patronne de Fayard, sera notre invitée demain à 7h45. Elle a été en lien direct avec le couple Obama pour la sortie de ce livre traduit en 24 langues.
Un chiffre que vous révèle ce matin Europe 1, les ventes de vin bio ont bondi de 25% en seulement 1 an. C'est ce qui ressort des données de notre partenaire www.relivancé qui étudie tous nos tickets de caisse. Même les grands châteaux sont passés bio avec parmi les précurseurs ce vigneron girondin Arnaud Delabarre. Cela fait 6 ans qu'il est passé en bio.
Quand j'ai commencé, j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit « Ouais, vous êtes sûr, vous allez passer au bio, ça va pas changer votre vin, nous on aime votre vin tel qu'il est. » Il y a des personnes que j'ai converties au bio et qui maintenant n'achètent plus que des vins biologiques. Ça nous conforte dans nos choix. Le but du jeu, c'est pas de gagner des 100 et des 1000, c'est de pouvoir vivre de son travail, de mettre des bonnes choses en bouteille qui soient pas polluées. De plus en plus, on en voit de ces clients-là qui ne cherchent plus que des vins biologiques. C'est le consommateur qui va décider du futur du bio, de la biodynamie. C'est le consommateur qui décide vraiment. Ces dernières années, on voit vraiment une évolution, une demande qui grimpe en flèche, quoi.
Arnaud Delabarre avec Stéphane Place pour Europe 1.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann et n'hésitez pas à réagir sur le répondeur de la matinale.
Oui, pour ça c'est très simple, hein. Vous appelez le 3921, le standard d'Europe 1 vous attend, mais aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez réagir, Pierre, avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h37.
Bonjour Jean-Michel Apathy.
Bonjour Pierre.
Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a donc admis officiellement les manquements de son administration au sujet de l'habitat insalubre.
Oui, il les a admis officiellement, 8 morts tout de même, et donc le premier responsable de tout cela, il faut le nommer, c'est Jean-Claude Gaudin.
A tout de suite.
7h-9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Il est 7h40, Pierre de Villeneuve, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
On n'en a pas assez fait, ce sont les termes employés hier par Jean-Claude Gaudin en conférence de presse à la mairie de Marseille. Jean-Michel Apathy, la formule est lourde de sens.
Oui, elle dévoile une grave crise politique à Marseille. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si Jean-Claude Gaudin peut rester maire de Marseille. Et quand on pose la question, on suggère la réponse. Pourquoi on pose ce genre de question? Parce que tout le monde a le sentiment que cette catastrophe aurait pu être évitée. Mai 2015, il y a plus de 3 ans, un rapport remis au ministre du logement, gouvernement Valls à l'époque, explique que 40 000 logements sont insalubres à Marseille, qui menacent la sécurité de 100 000 habitants sur 800 000. Un habitant sur 8 à Marseille vit en danger à cause des bâtiments. Le rapporteur dit que c'est la pire des situations en Europe rapportée à une grande ville. C'est pas un constat mince, ça. Ce rapport date de mai 2015. Jean-Claude Gaudin est maire depuis mars 1995, donc 20 ans avant que le rapport ne soit édité. Peut-être que la situation du logement était dégradée quand Jean-Claude Gaudin arrive à la tête de la mairie de Marseille. Mais ce constat, le rapport, montre que pendant 20 ans, la situation ne s'est pas arrangée, donc elle s'est détériorée. Et la première responsabilité de Jean-Claude Gaudin, elle est là. Ce rapport, mai 2015, est confidentiel. C'est la presse qui le dévoile, mercredi dernier, 2 jours après l'effondrement des immeubles. Mais ce rapport, il a été transmis en mai 2015 à la mairie de Marseille. Que fait la mairie de Marseille de ce rapport? Elle muscle, on l'a appris récemment, son service communal d'hygiène, qui est chargé de l'insalubrité. Et comme les pouvoirs publics ont la ville de Marseille à l'œil, au printemps 2018, donc il y a quelques mois, l'agence régionale de santé fait un audit de ce service communal d'hygiène. Et que dit cet audit dévoilé là par le journal Le Monde vendredi dernier? Il dit que le personnel recruté n'est pas compétent, ne connaît pas les problèmes d'insalubrité et plutôt que de régler les dossiers, les classe et laisse la situation empirer. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle la responsabilité de Jean-Claude Gaudin est gravement engagée. Il est inimaginable, mais vraiment, c'est un déni de démocratie, que le conseil municipal de Marseille continue de fonctionner comme il fonctionne, avec les mêmes gens au même poste. Il faut noter l'omerta du monde politique à ce propos. Julien de Normandie, le nouveau secrétaire d'État ou ministre au logement, aux abonnés absents. Laurent Wauquiez, Jean-Claude Gaudin est membre du parti que préside Laurent Wauquiez. Il n'a pas dit un mot de la situation. Martine Vassal préside la métropole de Marseille. Elle ambitionne de succéder à Jean-Claude Gaudin. Qu'est-ce qu'elle pense de la succession de Gaudin? Ce matin, on ne peut qu'être que d'accord avec les manifestants qui samedi étaient sous la fenêtre de la mairie. Gaudin démission, ils ont raison.
Merci Jean-Michel Apathy, tous les jours à 7h40. C'est vous qui le dites chaque matin, vous réagissez sur le répondeur 3921. Le gouvernement a donc avancé des pistes pour alléger la facture des ménages, compenser la hausse des prix du carburant. Ça vous fait réagir, on écoute Philippe qui nous appelle d'Oléron.
Je voulais réagir sur les gilets jaunes. Il faut absolument faire notre mobilisation parce que c'est la panique générale au niveau du gouvernement, il n'y a qu'à voir. Hein. Là, ils cherchent des mesures pour calmer le jeu. Alors un jour, c'est les régions qui vont payer, un jour, c'est les pétroliers. Sur 1,50€ le litre de gasoil, ils nous pompent 90 centimes. Donc s'il veut baisser le prix, eh ben, il enlève les taxes qu'il met sur le carburant. Et puis comme ça, ben, le prix va baisser. Et ça va éviter d'essayer de reporter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. On dirait un gamin qui a volé une sucette et qui dit que c'est le voisin.
C'est vous qui le dites, c'est tous les matins à 7h42. Réagissez à l'actualité, à ce qui vous touche, à ce qui vous interpelle, par téléphone au 3921. Laissez-nous votre message sur le répondeur d'Europe 1 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h43, Pierre de Villeneau.
7 jours, 14h, 21 minutes, nouveau record pour Francis Joyon, vainqueur de la Route du Rhum, victoire arrachée dans les derniers 1000 à François Gabart. Francis Joyon est avec nous dans quelques secondes.
7h, 9h.
Pierre de Villeneau sur Europe 1.
Il est 7h45, les principaux titres à retenir ce matin, Pierre Deville.
Et c'est Francis Joyon qui remporte à 62 ans pour la première fois en 7 participations la prestigieuse Route du Rhum. Il est avec nous dans quelques minutes. Un incendie cette nuit dans un immeuble situé à Sevran, Seine-Saint-Denis. On compte une vingtaine de blessés, dont 3 personnes en urgence absolue. Les syndicats de profs appellent à la mobilisation aujourd'hui contre les suppressions de postes dans le secondaire. Le budget sera examiné demain. 2650 postes doivent être supprimés à la rentrée prochaine.
Europe 1.
Pierre de Villeneau, avec nous ce matin, le vainqueur de la Route du Rhum, Francis Joyon.
Et qui est en direct avec nous de Pointe-à-Pitre. Bonjour Francis Joyon.
Oui, bonjour.
Et d'abord, bravo, bravo, bravo et merci, 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 parce que je sais que vous êtes très, 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 très fatigué, Francis.
Alors, bah, c'est vrai que c'est une course vraiment intense et il a fallu vraiment se donner à fond du début à la fin, pas dormir, manœuvrer tout le temps, affronter le mauvais temps. Les alizés à grains, ça donne le plaisir d'arriver en Guadeloupe d'autant plus fort.
Et quelle finale exceptionnelle vous nous avez offert. C'est un retournement de situation de dernière minute. J'imagine que vous n'aviez qu'une peur, c'est que Gabart revienne au tout dernier moment.
Ben, il est revenu, je l'avais à quelques, vraiment, 3 minutes avant de franchir la ligne. Il était à 2 longueurs de bateau de moi. Je le voyais au milieu des lumières des bateaux spectateurs. Il avait une très grande voile, il avait un J1, une voile de très grande surface, donc il allait plus vite que moi.
Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Il faut un mental d'acier quand même pour ça.
Ben, il faut pas lâcher, voilà, et j'ai voulu tenir jusqu'au bout. Oui.
Racontez-nous cette histoire de filet de pêche, c'est quand même pas de bol.
Il y a pas mal de casiers autour de la Guadeloupe et je pense qu'on a dû en attraper un dans le safran. Mais bon, ça fait un grand filin qui traînait derrière, c'était pas très pénalisant au niveau vitesse.
Non, ça vous pénalisait pas, ça vous ralentissait pas?
Ça ralentit un petit peu, mais pas énormément. Quoi.
7 jours, 14h, 21 minutes, vous portez ce nouveau record inscrit dans l'histoire, j'imagine que vous êtes fier.
Alors oui, moi j'aime bien les records, donc ça fait un de plus, voilà.
Il y en a une qui est fière, on va l'écouter, c'est votre femme Francis Joyon, c'est Virginie, on l'écoute.
Francis a un mental de dingue. S'il se fixe un objectif, bah, il est capable de dépasser ses limites. Il a dormi des petites minutes, des petits bouts de 10 minutes. Il ne s'est pas fait à manger, il a avalé ses barres de céréales, des trucs comme ça. C'est le bateau avant tout. Lui, il s'est complètement oublié. Hein. Et à mon avis, là, on va retrouver un Francis zombie, quoi.
On va retrouver un Francis zombie, interview quelques secondes, quelques minutes avant l'arrivée. Vous vous reconnaissez dans le Francis zombie?
Ah oui, tout à fait, à 1000%, oui.
C'était votre 7e participation à cette course mythique, Francis Joyon. Vous l'attendiez, cette victoire? Vous vous êtes dit quand même, il faut que ça arrive un jour?
Ouais, c'est vrai que cette participation, j'avais fait second comme meilleure place, donc voilà, il était temps de faire premier. Mais bon, c'est un peu la volonté de chacun des participants aussi, hein. J'étais pas seul à vouloir.
J'imagine. Est-ce que premier, oui. Vous retentez dans 4 ans ou est-ce que pour vous la boucle est bouclée?
Je sais pas, je sais déjà pas ce que je fais l'année prochaine, alors dans 4 ans, n'y pensons pas.
Quand vous regardez François Gabart, cette nouvelle génération de marins, elle apporte quoi? Elle a su s'inspirer de vous ou est-ce que les méthodes sont complètement différentes?
Je pense que les bateaux restent des bateaux, donc c'est à la fois de la marine traditionnelle et des bateaux volants, et c'est des projets magiques qu'ils sont en train de mettre en place, hein. C'est des très très beaux projets et je comprends leur passion à mettre ces machines volantes en place, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Pour vous, c'est ça l'avenir? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne naviguera plus que là-dessus?
Bah, c'est pas impossible, oui. Oui, que tout, quand on voit même au niveau des petits bateaux, au niveau des kites, au niveau des planches à voile, on voit que ça navigue énormément mieux dès que ça vole, en fait, hein. une bête planche à voile, vous lui mettez un foril et vous, tout de suite vous augmentez sa capacité à faire du prêt, à faire du portant, à aller vite. Et c'est pas que de la vitesse, c'est aussi, aussi des caps et des possibilités énormes qui se développent.
Vous regardez les jeunes, j'imagine avec beaucoup d'affection, les jeunes comme Gabart, mais un jour, il sera comme vous, il deviendra, pardonnez-moi l'expression, un vieux loup de mer, et alors il aura appris quoi ?
Chacun fait son expérience, mais celle de François est déjà vraiment énorme, hein, puisqu'il a, il a repris le record du Tour du Monde en solitaire en 42 jours, je crois.
Ma question, c'est, on apprend quoi avec le temps, Francis Joyon, avec l'expérience ?
C'est une bonne question. Il m'en faut encore un petit peu pour trouver la bonne réponse. Je ne suis pas tout à fait encore saisi, oui.
Eh bien, merci. Merci, Francis Joyon. Merci de nous avoir attendus, parce que je sais que vous avez patienté pour cette interview en direct. Merci et encore un immense bravo. Oui, et merci d'avoir été avec nous de Pointe-à-Pitre. Et merci, bien sûr, à Corinne Boulou, qui est avec vous à vos côtés, qui fait vivre ce direct, qui nous a fait vraiment, littéralement, rêver lors de cette route du Rhum.
Et nous avons, Pierre, de nombreuses réactions sur Twitter, dont celle de Sophie qui a suivi l'arrivée de la route du Rhum. Elle nous écrit: très belle victoire de Francis Joyon, arrivée haletante et nuit très courte pour moi. Ça nous connaît aussi, les nuits courtes ici. Continuez à réagir avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h50.
À suivre, le Zoom Éco avec le fisc qui arrive sur les réseaux sociaux pour faire la chasse aux fraudeurs. Axel de Tarlé nous explique tout dans un instant. Et puis dans un quart d'heure, direction la Californie, ravagée par une série d'incendies incontrôlables. Nous serons en direct dans le journal de 8h. À tout de suite sur Europe 1.
7h, 9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Il est 7h54, Pierre de Villeneuve, c'est l'heure du Zoom Éco avec Pierre, avec Axel de Tarlé, pardon.
Pierre, c'est moi.
Oui, je sais.
Bonjour Axel.
Bonjour Pierre.
Attention, le fisc va fouiller dans les réseaux sociaux pour démasquer les fraudeurs.
Oui, et attention Pierre, ça pourrait vous concerner parce que je sais que vous aimez bien les belles voitures.
Oui, mais je n'ai pas de voiture.
Oui, mais alors justement, Gérald Darmanin a presque cité votre cas hier sur, dans cette émission sur M6,
c'est
parce qu'il a dit donc que désormais, le fisc allait regarder sur Facebook, Instagram ou Twitter si des personnes s'affichent avec de belles voitures et qu'elles n'en ont pas les moyens, des voitures luxueuses. Alors Gérald Darmanin a dit peut-être que c'est votre cousin ou votre copine qui vous l'a prêté, cette belle voiture, ou peut-être pas. Donc voilà, donc désormais c'est dit, le fisc va enquêter pour savoir si votre train de vie que vous affichez sur les réseaux sociaux est cohérent avec les revenus que vous déclarez aux impôts.
Pardonnez-moi, voilà. Mais c'est de l'intrusion dans notre vie privée. Est-ce que c'est légal?
Bah oui, c'est légal dès lors que vous affichez ces photos publiquement. Oui. Le fisc a le droit de les regarder et de s'en servir contre vous. Bon, alors ce ne sera qu'un indice, hein, parmi d'autres. Vous savez que le fisc regarde déjà donc votre salaire, vos factures, vos billets d'avion. Donc l'objectif, c'est de déterminer au mieux les profils à risque. Mais oui, vous avez raison quand même. Sur le fond, tout devient public maintenant. On est en permanence sous l'œil d'Internet. Et on a des exemples tous les jours. Tenez, encore ce week-end. Je ne sais pas si vous avez eu cette vidéo de ce chauffeur de taxi clandestin qui escroque des touristes thaïlandais. Mais boum, la vidéo s'est retrouvée en ligne. Boum, enquête. Ce sont aussi ces abattoirs qui sont filmés de l'intérieur et qui se retrouvent sur Twitter. Et donc maintenant, nos soirées privées, nos voitures qui sont scrutées par le fisc. Finalement, on n'est plus très loin de cette fameuse prédiction de l'un des patrons de Google, c'était en 2013, et il avait dit « la vie privée est une anomalie qui pourrait disparaître avec Internet ».
Ouh là là, ça fait peur ça. Merci Axel de Tarlé.
Et il est 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Pierre, avec Jean-Philippe Ballas.
Eh oui, vous savez quoi, c'est tous les jours, juste avant 8h, avec vous Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous dites tel père, tel fils.
Oui, je vous présente un gamin de 15 ans, il est suédois, il joue au tennis, il joue très très bien, il est blond, il a les cheveux longs, bon vous me direz, il est suédois. Mais surtout, il s'appelle Borg, Léo Borg. Oui, je vous parle du fils de Björn Borg. Je vous en parle parce que le New York Times vient de lui consacrer un joli portrait qui commence par des larmes, figurez-vous, les larmes de la mère de Léo, désespérée le jour où son garçon lui annonce qu'il veut devenir joueur de tennis professionnel. Elle a tout fait pour l'en dissuader. Tu veux pas jouer au foot plutôt ou au baseball? Bah oui, elle est inquiète, Madame Borg, forcément, vous imaginez, l'ombre du père vaguement envahissante sur un court central. Au fait, il en pense quoi, Papa Borg? Mais il regarde avec bienveillance, mais à distance. Une fois, il a essayé de donner des conseils à son fils au bord du terrain, mais le rejeton l'a envoyé paître sur le thème « Qu'est-ce que t'y connais, toi, en tennis ?» Alors, ça a bien fait rire toute la famille. Faut dire que quand Léo est né, Björn Borg avait quitté le circuit depuis bien longtemps et que, côté inspiration, le garçon, aujourd'hui, il préfère plutôt Nadal. D'ailleurs, quand on lui demande s'il a déjà vu des images des matchs d'anthologie de son père, eh bien, Léo Borg répond « Non ». tout simplement, et il continue tranquille son chemin de grand espoir du tennis suédois. Voilà toute la question de la transmission, de la vocation au sein des familles. Alors, j'imagine ce matin votre progéniture dans la cuisine qui demande « Mais c'était qui, Björn Borg ?» C'était il y a très longtemps, les enfants. Vous savez quoi ? À l'époque, on jouait même avec des raquettes en bois.
Jean-Philippe Ballas, la petite histoire qui n'est pas en bois, c'est tous les jours avant 8h.
À suivre le journal de David Doucan.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abri de piscine.
Mais avant la météo avec Laurent Cabrol.
Et il pleut, Laurent.
Et il pleut, et pour ne pas plomber l'ambiance, je vais commencer par les endroits où il ne pleut pas, tiens.
Allez.
Parce que certaines régions sont gâtées. Les Lyonnais, nos amis lyonnais, auront des éclaircies avec des températures douces, mais aussi la plaine d'Alsace, la Franche-Comté, les vallées alpines, le Midi-Pyrénées sont des régions privilégiées. Si vous êtes sur le littoral méditerranéen, attention, le vent marin souffle, et donc vous aurez forcément des nuages et au pire même le petit épisode Sevenol qui commence à s'implanter dans son secteur, c'est-à-dire sur le Languedoc essentiellement. Et puis sur le Limousin, le centre, la Champagne et la Lorraine, allez, nous allons parler d'Averse et d'Averse cet après-midi simplement. Sur les Vosges, le Dijonais et l'Auvergne, Averse avec des orages. Et puis la région ou alors ou les régions où ça va pas bien, le Nord, la Picardie, les Ardennes, la région parisienne, la Sarthe, la vallée de la Loire, le Poitou-Charentes et la Normandie, parce que là nous sommes en pleine perturbation et elle est tellement bien ancrée que l'on a peur qu'elle reste là toute la journée, et je crois que ce sera le cas notamment sur la capitale, peu ou prou, il pleuvra tout le temps. Les températures maximales, 12 à Paris, 13 à Lille, 14 à Brest et à Rennes, 15 à Biarritz, 16 à Caen, 17 à Strasbourg, 18 à Belfort, 20 degrés à Toulouse et à Lyon, 21 à Marseille et 23 degrés en Corse. Demain, c'est un petit peu mieux et ensuite, ta-da-da-da-da !
Beaucoup mieux.
Ah oui.
Merci, après, Laurent Cabrol.
Très doux, très agréable.
À suivre, juste après le journal de 8h, coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouet. 8h15, l'interview politique. Audrey Crespo-Marin reçoit le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Déjà dans les transports, vous ouvrez l'œil, on vous accompagne. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h sur Europe 1.
Et merci de nous avoir choisi pour vous accompagner ce lundi 12 novembre. Il est 8h. Votre matinale info avec Pierre de Villeneuve.
Et le journal de 8h, c'est avec David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Trois titres à la une.
Quelle image après 7 jours de mer, deux trimarans bord à bord avec la Guadeloupe en ligne de mire. Suspense jusqu'au dernier moment et à la fin, c'est Francis Joyon, le vétéran qui remporte la route du Rhum. Vos enfants trouveront-ils porte close aujourd'hui dans leur collège ou leur lycée? Les professeurs sont en grève, ils protestent contre la suppression de 2600 postes. Ce sont des murs rouges, incandescents, qui avancent à la vitesse du vent. Le ciel est entièrement avalé par une épaisse fumée noire. Les incendies meurtriers en Californie, au moins 30 morts sont à déplorer.
Europe 1.
7 minutes et 8 secondes, ce n'est rien lorsque l'on vient de traverser l'Atlantique à la voile. Et pourtant, cela fait toute la différence. 7 minutes et 8 secondes d'avance pour Francis Joyon devant François Gabart. Francis Joyon remporte la route du Rhum. Les deux rivaux nous ont offert un spectacle extraordinaire avec leurs deux trimarans à touche-touche dans la dernière ligne droite. Écoutez, le vainqueur, il était votre invité, Pierre, il y a quelques instants, juste après avoir touché terre. Il avait un peu de mal à se remettre de ses émotions.
Pratiquement jusqu'au moment de passer la ligne, j'avais l'impression qu'il allait me repasser parce qu'il allait 2-3 nœuds plus vite que moi en fait. C'est vrai que ça a été un moment de grande inquiétude parce que je voyais François revenir comme un avion. J'étais content de réussir à arriver avant lui. C'est vrai que c'était costaud. Entre le départ avec le mauvais temps, non, c'était vraiment une course extraordinaire. Oui.
Le vétéran aura fini par avoir raison du jeune loup de mer. François Gabart, 35 ans, a pourtant fait la course en tête pendant plusieurs jours. Corinne Boulou, vous êtes à Pointe-à-Pitre pour Europe 1. C'est, Corinne, l'expérience d'un grand marin, Francis Joyon, 62 ans, qui a fait la différence?
Oh oui, il a disputé sa première Route du Rhum en 1990. C'était l'année de la victoire de Florence Artaud. Francis Joyon, c'est un roc breton avec un filet de voix, un marin hors norme à tout point de vue, peu adepte des grosses écuries de course au large. Il préfère sa petite équipe, dont fait partie d'ailleurs son fils Corentin. Après avoir navigué sur de vieux voiliers avec peu de budget, il a trouvé avec IDEC et son patron Patrice Lafargue un mécène qui lui permet d'assouvir sa passion, être en mer. Francis Joyon boucle un palmarès riche de victoires dans la transat anglaise en solitaire en 2000, de records en tout genre. Il a en sa possession le trophée Jules Verne qui lui a permis en 2017 d'être le plus rapide autour de la planète. Et cette nuit, eh bien, il s'est offert la route du Rhum, cette course qu'il attendait en coiffant sur le poteau le petit prince François Gabart.
Merci Corinne Boulou, vous étiez en direct de Pointe-à-Pitre pour Europe 1.
Les professeurs sont en grève, peut-être une journée test pour Jean-Michel Blanquer.
Oui, Pierre, cela dépendra de la mobilisation. Plusieurs manifestations sont prévues à Paris et en province. Précisons que c'est la première fois depuis 2011 que l'ensemble des syndicats de l'éducation nationale appellent à la grève. Ils protestent contre le budget 2019 avec la suppression de 2600 postes dans les collèges et lycées publics. Virginie Salmen.
Les profs disent stop au toujours plus avec toujours moins. Des injonctions qui pleuvent, selon eux, de la rue de Grenelle. Des classes toujours plus chargées en collège et en lycée où le pic démographique atteint des sommets. Avec 2600 postes de moins budgétés l'an prochain, ils ont l'impression que la rigueur est de retour. Les enseignants ont le douloureux souvenir des moins 80 000 postes pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, plus 60 000 sous François Hollande. Et cette année, ça repart à la baisse alors que le vivier de jeunes profs commençait à se reconstituer selon les syndicats. Pour eux, c'est du gâchis. Le ministre, lui, estime que toujours plus de moyens, ça n'est pas la solution, qui passe davantage par un redéploiement intelligent des ressources. Reste que malgré un pouvoir d'achat en berne sans perspective de revalorisation, les profs pourraient être au moins 25% à sacrifier un jour de salaire pour se mettre en grève aujourd'hui, au moins en primaire, selon les remontées des syndicats. Pour les collèges et lycées, ce sera la surprise puisque les professeurs ne sont pas tenus de prévenir à l'avance.
Les précisions de la spécialiste éducation d'Europe, hein, Virginie Salmen. Et puis, Pierre, encore un épisode navrant de violence à l'école. Cette fois, c'est un jeune de 16 ans qui a été mis en examen hier soir pour avoir frappé et étranglé son professeur de mathématiques à Beson dans le Val-d'Oise. La scène s'est déroulée vendredi vers 15h dans un lycée professionnel. L'élève n'avait pas supporté d'avoir été exclu de la classe un peu plus tôt. Le professeur est aujourd'hui en bonne santé.
Autre sujet, David, le grand déballage continue chez Force Ouvrière.
Oui, ce sont nos confrères du Parisien qui révèlent ce matin des pratiques surprenantes de la part de la direction. Les comptes sont dans le rouge et les notes de frais impressionnantes n'y sont pas pour rien. Près de 390 000 euros en 2017 pour seulement 13 cadres du syndicat, billets d'avion, loyers, trains, tout y passe, y compris des dépenses courantes non justifiées.
Et cette question, y aura-t-il du monde samedi prochain pour la journée de mobilisation des Gilets jaunes?
C'est la question que le gouvernement va se poser toute la semaine. La grogne déclenchée par la hausse des taxes sur les carburants va-t-elle se concrétiser par un blocage du pays? C'est ce que souhaitent les citoyens à l'origine du mouvement. Alors, ils continuent de se mobiliser sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie réelle, avec des opérations de tractage, comme par exemple ce week-end dans le Pas-de-Calais. Reportage de l'un de nos correspondants dans les Hauts-de-France, Kevin Tullier.
Positionnés à l'entrée d'un rond-point, ils sont une quinzaine, gilets jaunes sur le dos avec dans les mains des tracts imprimés maison pour informer des automobilistes pour la plupart déjà convaincus.
Pour être présent là le 17 novembre, on compte
on y
sur
sera,
vous.
On y sera.
On est tous concernés.
Ah ouais, il y en a marre là. Il y en a marre de payer aussi cher. Hein.
Vous avez pas mis votre gilet jaune?
Non, bah non, et en plus il est là, mais voilà. L'action est faite, mais bon, je suis solidaire. Voilà.
Des gilets jaunes qui ne se connaissaient pas il y a encore un mois, mais qui se sont trouvés un objectif commun, faire reculer le gouvernement sur la hausse des taxes sur les carburants.
On n'a pas le choix, il faut retourner ce gouvernement. Le carburant, c'est juste une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Encore le pouvoir d'achat qui baisse, tout simplement, donc à un moment, c'est plus possible.
Mais si les automobilistes les soutiennent en klaxonnant lorsqu'ils accrochent une banderole, s'ils sont suivis sur les réseaux sociaux par 2000 personnes, Alexis Gillot, l'organisateur, le sait, ils seront moins nombreux à sortir de chez eux samedi pour exprimer leur colère.
Il y en a beaucoup qui critiquent, mais qu'en fait, au final, ils restent dans leur confort, donc on essaie de mobiliser un maximum de personnes. Après, peut-être que le 17, on se trompe, qu'il y aura énormément de monde, j'espère. On doit tous être unis, de toute façon, c'est maintenant ou jamais.
Les Gilets jaunes de Lens sont prévus de tracter un maximum jusqu'à samedi, où ils espèrent mobiliser entre 400 et 600 personnes pour bloquer une pompe à essence et un centre commercial.
Reportage signé Kevin Tullier.
Europe 1.
À suivre dans le journal, les incendies les plus meurtriers depuis 1933 en Californie. Nous sommes sur place dans un instant, à tout de suite.
Il est 8h07, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
La suite du journal, David Doucan, et un énorme bilan meurtrier pour les incendies en Californie.
Oui, c'est ce que l'on appelle désormais le campfire, a entraîné la mort d'au moins 30 personnes. Le mur de feu est incontrôlable, c'est la panique dans de nombreux secteurs. Les précisions de notre envoyé spécial à Malibu, Benoît Clerc.
Ce matin, à leur réveil, les Californiens ont pu constater l'ampleur des dégâts. Au nord de Sacramento d'abord, le campfire s'étale maintenant sur plus de 460 km² et n'est toujours pas sous contrôle. Le nombre de victimes s'accroît d'heure en heure et les shérifs font du porte-à-porte pour retrouver les disparus. Dans la région de Malibu, en 48 heures, ce sont plusieurs centaines de maisons qui sont parties en fumée et le paysage est par endroits lunaire. Laurent, un Français qui habite sur place, témoigne pour d'autres expatriés encore sous le choc. Ils ont tout perdu en seulement quelques minutes.
C'est la lueur d'un cheval au galop, puisqu'ils disent que le feu franchissait en une minute trois terrains de football. Donc là, ils ont reçu un texto de la ville de Matipo, extrême urgence, évacuation immédiate, le feu est incontrôlable. Donc là, ils ont juste le temps de prendre une voiture, ils sont descendus sur la plage.
Le consulat général de France a mis en place une cellule de crise pour leur venir en aide. Les autorités pensent qu'il leur faudra au moins trois semaines pour venir à bout de ce sinistre. À Malibu, Benoît Clerc, Europe 1.
En tout, ce sont 250 000 personnes qui ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile. Les autorités craignent le retour des vents de Santa Ana, chauds et secs, qui pourraient encore davantage renforcer la violence des flammes. Un soldat israélien et 6 palestiniens sont morts hier dans la bande de Gaza, conséquence d'échanges de tirs opposant les forces spéciales de l'État hébreu à des combattants du Hamas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a précipitamment écourté sa visite à Paris pour les commémorations du 11 novembre. Le rendez-vous prévu ce matin à l'Élysée avec Emmanuel Macron est donc annulé.
Europe 1 revient maintenant sur le Louvre à Abu Dhabi.
Oui, parce qu'il a été ouvert au public il y a un an, jour pour jour. Alors faisons le bilan. 1 million de visiteurs en tout. C'est un succès pour cette succursale du Louvre qui fait office de tête de pont, vous allez voir, pour le musée parisien. Les précisions de Diane Chenouda.
Le Louvre à Abu Dhabi, c'est d'abord un moyen pour le Louvre Paris de séduire de nouveaux publics, comme les Indiens, qui sont les premiers à visiter en masse le musée à Abu Dhabi et qui ne viennent pas encore à Paris, confirme Jean-Luc Martinez, le directeur du Louvre.
Le public indien n'est pas encore très très présent en Europe. Et ce public cultivé qui commence à voyager, il voyage dans le Proche-Orient et notamment dans le Golfe. Donc c'est donc une chance pour le musée du Louvre de rencontrer ce public.
Et un moyen, il espère, de le faire venir un jour nombreux au Louvre à Paris. Autre énorme atout, l'argent d'Abu Dhabi. 400 millions d'euros versés sur 30 ans, 260 millions déjà servis notamment à financer des travaux d'investissement.
Ça a été par exemple donc en 2016 les travaux de rénovation des infrastructures d'accueil sous la pyramide. Nous avons pu faire ces travaux, nouvelle billetterie, nouvelle bagagerie, nouvel accueil des groupes, grâce à l'argent d'Abu Dhabi. C'est aussi, pardon de le dire comme ça, ce n'est pas le contribuable français qui a financé tous ces travaux, un projet autour de 60 millions d'euros.
Et plus de 30 millions d'euros permettent aussi de financer c'est le centre de conservation des réserves en cours de construction à Liévin.
Diane Chenouda du service culture d'Europe. Le calvaire de l'AS Monaco continue. Le club de Thierry Henry a subi hier une cinglante défaite, 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Le nouvel entraîneur affirme désormais que son seul objectif est le maintien en Ligue 1. Les Monégasques sont avant-derniers au classement.
On sent que ça vous affecte.
Bah bien. Oui, ça fait toujours de la peine.
Un club qui rame. Très bien.
Voilà.
Mais
vous n'avez pas de cœur.
Moi j'en ai pas. Non. Bon, voilà. De toute façon, les gens le savent. Merci. C'était le journal de David Doucan.
L'actualité vous interpelle, continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. Il est 8h11.
La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Coup d'œil maintenant à l'international avec Vincent Hervouet, Pierre.
Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Pierre.
Vous revenez sur les célébrations hier du 11 novembre.
Ben oui, le 11 novembre, la France a imposé l'armistice. Ce fut un soulagement davantage qu'une victoire. Mais après tant de sacrifices, quelle joie! Hier, pourtant, on avait l'impression d'assister à un enterrement en regardant les chefs d'État et de gouvernement remonter les Champs-Élysées déserts, tous en noir, visage fermé, sous une pluie de saison. Dans tout enterrement, on pense aux absents. Hier, c'était aux Anglo-Saxons, Donald Trump qui boude, et surtout les Britanniques qui sont restés chez eux. Après, on peut évidemment comprendre que la chancelière allemande ou le président turc ruminent des idées sombres. Leur pays ne fêtera jamais le 11 novembre. Recep Tayyip Erdogan ne se console pas du démantèlement de l'Empire ottoman. Mais les autres, pourquoi ce deuil? Qu'est-ce qu'on enterrait donc hier?
Emmanuel Macron lui a mis en garde contre le retour du nationalisme.
La nation, c'est la guerre. Mais l'absence de l'État, c'est pire, non? Demandez aux Libyens piégés dans le chaos, à leurs voisins du Sahel, aux Irakiens, aux Syriens, abandonnés aux djihadistes. Et quand on est les nations, elles se vengent. C'est l'autre grande leçon de l'entre-deux-guerres. Voyez les Kurdes, les Rohingyas, les Tibétains, je sais. Le Forum de la paix, hier, vantait le multilatéralisme. C'est plus long, mais ça veut dire un peu abracadabra. Le multilatéralisme serait la panacée pour le dérèglement du climat et l'égalité homme-femme, contre les mafias et contre les cyber attaque. Mais si le multilatéralisme est la panacée, les chefs d'État et de gouvernement devraient camper en ce moment à l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tient dans l'indifférence absolument générale. L'autre moitié du monde, l'Inde, le Japon, le Brésil, auraient fait le voyage hier à Paris. Et puis surtout la Chine. Comment penser le monde sans elle? Le 11 novembre, les Européens se souviennent qu'ils se sont suicidés et ils veulent réformer le monde pour encore le dominer. Mais pour les Chinois, le 11 novembre, c'est le 11-11, c'est-à-dire 4 fois 1, signe de chance et donc le grand jour annuel des soldes.
Merci Vincent Hervouette, l'international, tous les jours sur Europe 1 à 8h10.
Europe 1.
Et il est 8h14.
Restez avec nous dans deux minutes, c'est l'interview politique d'Europe 1 avec vous, Audrey Crespo-Mara. Bonjour.
Bonjour. Il va devoir défendre Emmanuel Macron et le gouvernement face aux enseignants aujourd'hui et face aux opposants qui préparent le blocage du pays samedi. C'est une grosse semaine qui l'attend. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement, sera mon invité.
A tout de suite sur Europe 1.
7h, 9h. 2 heures d'infos avec Pierre de Villeneau sur Europe.
Il est 8h17, Pierre de Villeneau.
Et le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, est votre invité, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Benjamin Griveaux.
Bonjour Audrey Crespo-Mara.
Plus de 70 chefs d'État hier à Paris, après s'être fait interpeller toute la semaine par des Français en colère. Emmanuel Macron était content de parler d'autre chose que du diesel.
D'abord, il était content d'accueillir de très nombreux chefs d'État et de gouvernement à Paris, qui une fois de plus a été la capitale de la liberté où on célèbre le multilatéralisme et on célèbre la paix qui a été si chèrement acquise au prix de millions de vies il y a bientôt 100 ans.
On célèbre la paix, mais alors ce grand forum sur la paix avec un grand absent, Donald Trump, le budget militaire des États-Unis c'est 3 fois plus que celui de la Chine et 10 fois celui de la France et de la Russie. Une conférence sur la paix sans les deux plus grosses puissances militaires, ça a un sens vraiment ?
D'abord, il y a beaucoup de présents et moi je veux saluer ceux qui ont fait ce travail de multilatéralisme. Et vous savez, bâtir la paix, ça se bâtit pas sur l'augmentation de budget militaire. Le Forum pour la paix, il est là aussi pour parler d'autres sujets qui viennent percuter nos démocraties, nos modes de vie, comme la question du changement climatique, comme la question du numérique, comme la question de la politique migratoire. Ce sont aussi ces sujets-là dont les chefs d'État et de gouvernement qui sont présents, dont les délégations nombreuses, dont les ONG, les organisations internationales présentes encore à Paris jusqu'à demain, vont pouvoir débattre et construire, parce que c'est par le dialogue et c'est par la construction entre ces corps intermédiaires, ces ONG, les États et les institutions internationales que nous trouverons des solutions.
Mais
efficace
même,
pour le quotidien de nos concitoyens.
Quand même, sans c'est les deux plus grosses puissances militaires du
Mais
monde,
savez,
est-ce que ça a un sens ?
Vous savez, ils finiront par nous rejoindre. Je n'ai pas de doute là-dessus. Ils finiront par travailler avec nous sur les questions du changement climatique parce que la colère des peuples, l'angoisse de nos peuples face à la question migratoire, face à la question environnementale, face à la question numérique, ils ne pourront pas rester sourds à ce que leurs peuples leur diront. C'est là notre conviction. En tout cas, la France a souvent été un aiguillon sur ces sujets et nous continuerons d'être à l'avant-garde des nations du monde.
Benjamin Griveaux, journée de grève dans l'éducation nationale. La FCPE a fait ses comptes. Depuis la rentrée, il y a eu plus de 26 000 heures de cours qui n'ont pas été assurées parce qu'on ne trouve pas de remplaçants. Est-ce que c'est vraiment le moment de supprimer des postes ?
On supprime des postes dans le secondaire. Ça fait
2600 postes d'enseignants en moins.
Soit 0,2% environ de la totalité des postes dans l'éducation nationale. 0,2%.
2600 postes alors que les profs
million,
se sentent déjà
sur
seuls.
Sur plus d'un million. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que ça fait 30 ans qu'on explique dans tous les rapports, les plus sérieux, les plus scientifiques, et parfois même dans des sensibilités politiques qui ne sont pas les mêmes, que nous avons trop de monde au lycée et que nous avons un lycée où nous surinvestissons.
C'est pas ce que pensent les profs du secondaire.
Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et qu'on sous-investit chroniquement dans le primaire. Nous, on a décidé de mettre le paquet au départ sur l'éducation, dans le primaire, en divisant par deux les élèves par classe. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des élèves qui sortent du CE1, qui savent lire, écrire, compter, se respecter, ce sont de meilleurs élèves dans la fin du primaire et de meilleurs élèves au collège et ensuite au lycée.
Donc,
qui
sans que doute, l'on donne aux uns, il faut le prendre aux autres,
non,
c'est ça ?
Non, ça n'est pas ça. Qui est que les besoins d'encadrement que vous avez dans le secondaire, importants parce que les élèves que vous récupérez sont des décrocheurs scolaires que vous n'avez pas suffisamment formés au début de leur vie, de leur jeune vie, ceux-là, eh bien nous mettons le paquet au départ et c'est parfaitement assumé. Et d'ailleurs, les premiers résultats sont assez spectaculaires. Les classes où les élèves ont été divisés par deux, les enfants maîtrisent les savoirs fondamentaux. À la fin du CP, c'était pas le cas avant et c'est là, nous, qu'on veut mettre l'accent. C'est là-dessus qu'on met l'accent. Par ailleurs, ce ne sont pas que des postes d'enseignants. Il y a 400 postes dans l'administration parce que, eh bien, comme l'ensemble de nos administrations, quand on a des changements profonds induits par le numérique et autres, il y a des modes de gouvernance qui changent, il y a des manières de fonctionner différentes, c'est normal.
Mais
et ça reste un effort très mesuré. Je rappelle par ailleurs que le budget de l'éducation nationale augmente cette année. Il y a très peu de budgets qui augmentent.
On supprime des postes, mais on veut faire entrer des policiers
de
à l'école. À vous, ça paraît
non,
pas logique,
attendez,
quand même.
Faites pas la comparaison. Enfin, faut comparer. On part pas tout et n'importe quoi. On fait pas rentrer des policiers. D'abord, il y a déjà 6500 officiers de sécurité qui sont en liaison permanente avec les établissements scolaires. Et c'est une bonne chose. Parce qu'on l'a vu, il y a des questions de sécurité qui peuvent se poser, y compris au sein des établissements. Mais on mélange pas ça. On remplace pas des profs par des policiers. C'est pas du tout ça l'état d'esprit. Et vous le savez bien.
Benjamin Griveaux, c'est pas simple de faire baisser les dépenses publiques, d'autant que vous n'avez pas forcément montré le bon exemple avec les dépenses de votre cabinet, si l'on en croit l'ancien député socialiste René Dosière, connu pour lutter contre le gaspillage budgétaire. La rémunération mensuelle brute de votre cabinet aurait explosé de 49% en 2018, avec un montant moyen de plus de 9000 euros par conseiller. La réduction des dépenses publiques, c'est quand même l'affaire de tous, non ?
C'est donc faux. Et c'est une information qui circule suite à un papier de Capital.
C'est l'annexe
donc,
du projet de loi de finances.
Je vais
hein.
le dire. C'est faux. C'est faux.
Donc il y a des fake news dans l'annexe du projet de loi de finances.
Il y a des gens qui le lisent manifestement avec un parti pris. Et donc moi, je vais demander un droit de réponse par voie d'avocat. Parce que j'en ai assez que la classe politique soit en permanence victime d'un tir au pigeon. Quand on est un journaliste sérieux, il y a une immense majorité des journalistes qui sont sérieux et qu'on fait un papier comme ça. C'est dans Capital. On appelle le cabinet du ministre ou le ministre pour qu'il puisse au moins avoir un droit de réponse. Ça n'a pas été fait. Quelle est la réalité
Cette
des chiffres
du
Quelle
projet
est
de
la réalité
finance.
Des chiffres On m'accuse d'avoir, c'est une augmentation non pas de 49%, mais de 86%. Donc c'est rocambolesque. C'est 27%. Pourquoi c'est 27%? Ça avait été calculé avec 4 conseillers pour mon prédécesseur quand il en avait 5. Et moi, j'ai évidemment 5 conseillers comme m'autorise le plafond fixé par le Premier ministre. C'est donc 27% d'augmentation. Pourquoi ? Parce que mes conseillers sont plus expérimentés sont plus âgés que les conseillers qui étaient là auparavant. Est-ce que je suis très au-dessus de la moyenne ? La moyenne des cabinets ministériels, je suis 2% au-dessus. Très exactement, 2,2% au-dessus. Monsieur Dosière, c'est bien qu'il nous donne la leçon. Je rappelle simplement que sous le quinquennat Sarkozy, c'était 596 conseillers de cabinet. Sous le quinquennat Hollande, 522 conseillers de cabinet. Sous le quinquennat Macron, on est à 311 conseillers de cabinet.
Mais mieux payé.
Le dernier,
mieux payé.
Non, pas mieux payé. Le dernier cabinet dont le ministre était, comme moi, porte-parole et seulement porte-parole, il se trouve que c'était Laurent Wauquiez. Il avait 12 conseillers. J'en ai 5. C'est 58% de moins. Et donc, quand on donne des chiffres, la moindre des choses, c'est donner la parole à la défense. La politique, c'est pas un jeu de baltrap. Je vais vous dire, on est très précautionneux de l'argent public. Et moi, sans doute, encore plus que quiconque, ma génération politique est très précautionneuse parce que les générations précédentes ne l'ont pas vraiment
vous
été.
Vous entendez porter plainte.
Et donc,
vous parlez
moi,
d'avocat.
Très clairement, je demande un droit de réponse et je vais saisir mes avocats parce que je ne laisserai pas raconter n'importe quoi, ni sur les membres de mon cabinet, ni sur d'ailleurs les membres d'autres cabinets. Je n'ai pas été le seul ministre mis en cause. Et à nouveau, c'est une mise en cause bien rapide qui donne peu la parole à la défense.
Samedi, les Gilets jaunes veulent bloquer la France pour protester contre la hausse des prix des carburants. Vous allez nous répéter ce que dit le président, qu'il est très heureux que les Français s'expriment.
Écoutez, nous verrons d'abord la fréquentation de ces manifestations de samedi. Moi, je m'y perds un peu parce que vous avez pêle-mêle des gens du Front National. Enfin, maintenant, c'est Rassemblement National, c'est plus le Front National, de Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Vous avez des gens de la France Insoumise. Donc, tout ça est un patchwork assez inattendu avec des revendications.
Vous contestez le caractère populaire de ce mouvement ?
Absolument pas. Nous verrons le caractère populaire de ce mouvement. Il se tient le 17 novembre. Nous sommes le 12. Donc, il m'est difficile d'anticiper le caractère populaire. Ce que je dis, c'est que derrière, il y a des tentatives de récupération et d'instrumentalisation. J'entends la colère de certains Français qui le font avec sincérité parce que c'est galère d'aller bosser quand on est à 30 ou 40 km de son boulot et d'avoir des prix à la pompe qui augmentent. On le conçoit parfaitement bien puisque le président de la République à ce micro, il y a une semaine, a dit que nous allions y travailler à des mécanismes qui permettent d'accompagner les plus modestes d'entre nous. Ceux qui seront tentés de faire de la récupération politique, on les voit venir gros comme une maison. Je leur laisse la récupération politique. Nous, on s'occupe des Français pour qui c'est difficile d'aller bosser le matin et avec lesquels nous allons et avec lesquels auxquels nous allons proposer des solutions dès cette semaine.
Merci Benjamin Griveaux.
Merci à vous.
Merci, c'était l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara que vous retrouvez bien sûr sur notre site europe1.fr.
Europe 1,
il est 8h25.
À suivre la revue de presse de David Abiker. Sale temps pour les chefs, le général Pierre de Villiers revient dans le Figaro. Arme au point. Et puis 8h45, la revue de presque de Nicolas Canteloup sur Europe 1.
Europe 1.fr.
Il est 8h28.
La
météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abri de piscine.
Et avec Laurent Cabrol, Pierre de Villeneuve.
Quel temps sur le Cidobre, Laurent Cabrol, puisqu'on en parle en antenne, de cette magnifique région.
Secteur granitique au nord de Castres, qui est très joli et qui est très insolite. Bah, là-bas, il fera beau. Il fera beau sur l'ensemble du Midi-Pyrénées, c'est d'ailleurs une exception vraiment très, très particulière sur la France. Aujourd'hui, beau temps sur le Midi-Pyrénées, sur la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté, les plaines d'Alsace. Et donc, par définition, j'ai passé la région Rhône-Alpes, donc la ville de Lyon. Il fera très beau dans toutes ces contrées, surtout très doux. Sur l'Auvergne, le littoral de la Manche, les Vosges, le Dijonais et des averses orageuses. Sur le Limousin, le centre, la Champagne et la Lorraine, depuis cet après-midi. Et puis, on revient sur cette perturbation. Ah, la bougresse, elle est énorme, elle est énorme. Elle fait 600 km de long, presque 300 km de large, et elle ne bouge pas. Vous savez, c'est paresseux, c'est l'animal le plus lent. Il fait 12 mètres à l'heure. Oui. Et ben elle, c'est pareil. Elle est là, elle ne bouge pas. De sorte qu'il va pleuvoir une grande partie de la journée sur Paris, sur la Ardennes, le Nord, la Picardie, sur la vallée de la Loire, la Normandie, le Poitou-Charentes, parce qu'elle va avancer très très lentement en quittant ces régions à petits pas. Sur le bassin méditerranéen, c'est un temps agité en raison de l'épisode Cévenol. 13 degrés à Lille maximale, température maximale, j'ai oublié 12 à Paris, 15 à Biarritz, 16 à Caen, 18 à Belfort, 20 degrés à Lyon et Auxerre et 21 à Marseille.
Merci Laurent Cabrol. Juste après la revue de presse, c'est votre journée. Coup de fil ce matin à Alain Chamfort qui est en tournée avec un nouvel album, Le désordre des choses. Et puis à 8h40, il met le désordre lui chaque matin dans le studio. C'est Nicolas Canteloup.
Nous sommes le lundi 12 novembre, il est
8h30. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Tout de suite, la revue de presse avec David Abiker. Pierre.
Bonjour David.
Bonjour Pierre, bonjour Céline.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Alors ce matin dans la presse, on lira deux papiers qui se répondent dans le Parisien aujourd'hui en France. Le premier concerne la dérive financière du syndicat Force Ouvrière et ce qui pourrait bien devenir le scandale des notes de frais de ses dirigeants. Les 13 membres du bureau confédéral de Force Ouvrière se sont fait rembourser pour 388 000 euros de notes de frais en 2017, soit près de 30 000 euros de frais de transport, hôtels et restaurants par personne et par an. Alors les explications et les justifications du syndicat viendront. Mais voilà une addition hors salaire plus que confortable qui pose la question de la crise de l'autorité, la crise des chefs, qu'ils soient leaders syndicaux comme ceux qui défileront aujourd'hui aux côtés des profs ou des responsables politiques tels ceux qui se rassemblaient hier pour le centenaire de l'armistice. La crise des chefs, la crise de l'autorité, c'est justement le sujet, toujours dans le Parisien, de l'interview donnée par l'ancien chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, pas Pierre de Villeneuve. Pierre de Villiers, le général qui avait quitté ses fonctions, souvenez-vous, il y a un an et demi, à la suite d'une passe d'armes entre Emmanuel Macron. Avec Emmanuel Macron, ce général 5 étoiles publie « Qu'est-ce qu'un chef ?» Et parmi les qualités qui font un chef, Pierre de Villiers cite entre autres la capacité à inspirer confiance et l'exemplarité. Voilà ce qu'il dit. « Plus ça chauffe, dit-il, plus les emmerdes volent en escadrille. Plus le chef doit absorber les inquiétudes, donner confiance et faire preuve, dit-il, d'exemplarité. » Voilà qui pourrait inspirer les responsables de Force Ouvrière qui se cherchent un chef, mais également tous les chefs qui aujourd'hui sont confrontés à ces emmerdes qui volent en escadrille.
Phrase de Chirac.
Exactement.
Parmi les difficultés qui attendent le gouvernement cette semaine, la manifestation des enseignants aujourd'hui et celle des Gilets jaunes samedi prochain, David.
Prof en grève, les Français approuvent. Titre Sud-Ouest, 72% des Français soutiennent la grève des enseignants qui seront dans la rue aujourd'hui pour dénoncer la suppression en 2019 de 2650 postes dans le secondaire. Des profs en colère nous rappellent l'opinion qui, parce qu'ils attendent une augmentation du nombre d'élèves de 40 000 dans les trois prochaines années. Et donc, évidemment, supprimer des profs, ça ne leur plaît pas. L'Est républicain revient également sur la manière dont les Gilets jaunes, eux, répètent et préparent la mobilisation du 17 novembre avec un tour de chauffe hier, avec le blocage de l'A31. En tête, ils ont évidemment le prix du carburant, mais également le pouvoir d'achat. Et sur ce sujet du pouvoir d'achat, on lira dans Ouest France l'éditorial de Michel Urvois, qui résume à lui seul la difficulté pour nos chefs, toujours eux, de naviguer et gouverner entre raison et passion. Voilà ce qu'il nous dit, l'éditorial. éditorialiste. En 1980, avec une heure de travail, un smicard pouvait s'acheter 3 litres d'essence. Aujourd'hui, il peut en acheter 6 pour alimenter une voiture qui consomme moitié moins qu'il y a 40 ans. Il y a quelques mois, je poursuis ce que dit l'éditorialiste, voilà ce qu'il y avait il y a quelques mois. Nicolas Hulot, il voulait augmenter les taxes sur le diesel. Jean-Luc Mélenchon, lui, trouvait trop timoré la fiscalité écologique. Aujourd'hui, Hulot affiche la plus forte cote d'amour dans les sondages et Mélenchon appelle à manifester contre les hausses de carburant, comprenne qui pourra.
Sale temps pour les chefs, donc.
Et pas seulement pour ceux qui nous gouvernent, mais également pour les coachs sportifs de nos enfants. Libération Champagne nous raconte ce matin l'agression de l'entraîneuse historique du club de basket de Saint-André-les-Vergers. Elle a 77 ans, Colette Méhan. Le père d'un joueur de 15 ans l'a violentée dans le vestiaire à la mi-temps. Pourquoi ? Parce que son fils en larmes n'était pas encore entré sur le terrain. 60 jours d'arrêt de travail pour Colette, qui, je le rappelle, a 77 ans. Vous voyez, même quand on inspire la confiance, qu'on a l'expérience et l'autorité, il se trouve toujours quelqu'un pour vous la contester. Sale temps pour les chefs, donc, dans un monde toujours plus complexe. C'est ce que nous expliquent les journaux ce matin. Exemple, le cyberespace devenu un lieu de guerre majeure et qu'il faut pacifier. C'est la une de Libération et l'enjeu du forum qui se tient aujourd'hui à Paris pour éviter un 14-18 de l'Internet. Un vrai casse-tête pour les chefs d'État qui désormais intègrent Internet à leur doctrine militaire. Le monde toujours plus complexe, c'est encore la guerre de la frite entre Bruxelles et la Colombie. La Colombie qui entend imposer un droit anti-dumping de 8% sur les importations de pommes de terre belges surgelées, néerlandaises et allemandes. Cette guerre de la frite que nous raconte le Figaro, elle a donné lieu à 17 réunions de négociations entre Bruxelles et la Colombie. 17 réunions pour parler de frites surgelé. Vous imaginez le nombre de réunions pour désarmer la planète, pour parler climat ou pour négocier avec Trump ou Poutine de la paix? 17 réunions pour évoquer le prix de la frite. Vous y penserez la prochaine fois que vous irez chez McDonald's ou Burger King. Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du
ketchup pour mon hamburger. Merci à William Scheller, j'allais dire, mais aussi à David Abiker.
Europe 1. Et il est 8h35.
Et à suivre, c'est votre journée. Coup de fil non pas à William Scheller, mais à Alain Chamfort. Nouvel album, tourné dans toute la France, une carrière de 50 ans et toujours au top. Le chanteur de Manu Reva est avec nous dans un instant. 8h45, il arrive le boss de l'imitation. C'est Nicolas Canteloup, tout de suite.
7h, 9h.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.fr.
Il est 8h37, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Pierre de Villeneuve.
Les syndicats de professeurs appellent à la mobilisation aujourd'hui contre les suppressions de postes dans le secondaire. Budget qui sera examiné demain. 2650 postes doivent être supprimés à la rentrée prochaine, soit 0,2% de la totalité, nous précisait tout à l'heure Benjamin Griveaux. Incendie en Californie, une trentaine de morts, c'est le bilan le plus meurtrier depuis 1933. Chaque automne, l'état de l'Ouest américain est ravagé par les flammes. Et puis la victoire de Francis Joyon à 62 ans à la route du Rhum. Un record à la clé, 7 jours, 14 heures, 21 minutes. Tout s'est joué dans les derniers instants avec François Gabart qui a passé la ligne d'arrivée 7 minutes plus tard.
Europe 1. Pierre de Villeneuve, c'est votre journée.
Chaque jour, coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Ce matin, nous sommes en ligne avec Alain Chamfort. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
C'est sympa de nous faire coucou sur Europe 1. Vous êtes en tournée avec votre nouvel album, Le Désordre des Choses. Vous serez à Paris au Trianon ce jeudi soir. Comment ça se passe la tournée ?
Ouais, écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. Oh, merci, heureusement. Non, ça va, c'est un rendez-vous qu'on donne comme ça aux gens qui nous aiment bien. Alors, vous voyez, c'est toujours agréable, on ne va pas se priver de ça.
L'actualité pour nous tous ce matin, bien sûr, hein, Alain Chamfort, c'est l'arrivée de la route du Rhum, la victoire à un cheveu de Francis Joyon. Ça vous rappelle des souvenirs, bien sûr?
Oui, bien sûr, puisque c'était à l'occasion de la première course du Rhum que le Manu Reva s'est perdu et que ça a donné l'idée à Serge d'écrire ce joli texte, quoi, en hommage. Oui. Oui, absolument, oui. Voilà, donc cette chanson a 40 ans, 39 ans exactement, mais enfin, ouais. Et à chaque fois que la course du Rhum part, et ben c'est vrai que je peux pas ne pas l'oublier, quoi. Il y a toujours ce petit rappel là, entre autres grâce à cette chanson.
Alors Barry Gibb disait souvent ne pas aimer chanter Stayin' Alive, Bowie n'aimait pas chanter Let's Dance. Est-ce que vous boudez à l'idée d'interpréter Manu Reva quand le public vous le demande?
Mais non, parce que quand le public le demande, justement, c'est là où il y a un vrai plaisir, parce ouais. que on voit qu'on apporte de la satisfaction et de la joie aux gens, donc c'est quand même ça aussi à quoi servent les concerts. C'est à passer des bons moments ensemble, donc il n'y a aucune raison que je ne fasse pas ce cadeau-là. Et puis moi, ça me fait plaisir de chanter une chanson qui a eu un gros succès, voilà, il n'y a pas de... Non, c'est le plaisir reste encore à peu près intact.
Et aussi, bien sûr, les chansons de votre nouvel album. Pop, le tube de votre nouvel album avec des textes qui résonnent à l'actualité, c'est presque une sorte d'édito. Vous dites tout prend l'eau et on écope. Votre album s'appelle Le désordre des choses. Vous avez envie de faire passer un message ?
Oh, c'est une espèce de photographie sur ce qu'on ressent de la société actuelle, quoi. Ce que le monde devient, on le fait avec un peu de légèreté, mais c'est vrai que voilà, on écope, on essaye de récupérer les morceaux tous les uns comme on peut dans nos vies entre nous avec un peu de solidarité, tout ça. Mais enfin, c'est pas une vie très facile pour personne.
Eh bien, merci beaucoup Alain Chamfort. Je vous signale, mon cher Alain, que Nicolas Cantelot, qui vous écoute, qui va vous succéder. Est un fan de vous, il vous adore. Oui. Voilà.
Bah, c'est réciproque, hein. Vous pouvez lui dire.
Passer le message. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Le désordre des choses sur le désordre des choses, votre dernier album et votre tournée. Merci.
Europe 1. Et il est 8h40 à suivre Pierre de Villeneuve.
Eh ben justement, le voilà, il arrive, c'est Nicolas Canteloup.
Et il est 8h43.
Attention, les voilà, Julie et Nicolas Canteloup.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va commencer par un duplex avec Nikos. Où êtes-vous, Nikos, ce matin ?
Eh bien, ma chère Julie, je suis toujours en direct de Cannes.
Ah, ouais.
Oui, aux Energy Music Awards, où il y a eu un énorme bug, vous le savez, puisqu'Alain Chamfort n'a pas eu de prix, alors qu'il méritait le prix du meilleur artiste de l'année, meilleur album, meilleur
exact.
Single, meilleure tournée,
bien
meilleure
d'accord.
chanson, en toute impartialité, bien sûr. Alors, je suis en train, pour tout vous dire, en train de ranger les chaises et de balayer les confettis. Ils ont laissé un bordel sur place. Vous avez remarqué que je suis un petit peu le journaliste, le gymnaste, disons, de l'interview, toujours en grand écart. Je passe aisément d'Emmanuel Macron à David Guetta sans problème. Et vous remarquerez, cher Pierre de Villeneuve, que je n'ai pas demandé à David Guetta s'il était confiant pour les élections européennes, ni à Macron quand est-ce qu'il mixait à Ibiza. Pour l'instant, je tiens bon, Pierre, je tiens bon.
Bravo.
Un jour, cher Pierre, tu y arriveras.
Merci.
Alors écoute, j'ai confiance, je te laisse les clés de la boutique. Par contre, si un président est interviewé, je reviens en urgence.
Tiens. Allez, merci Nico, à bientôt.
Bisous.
Donald Trump a créé la polémique ce week-end en annulant un déplacement dans l'Aisne sur un cimetière d'anciens combattants américains à Bois Bello. La raison invoquée et le mauvais temps.
Effectivement, le temps, il faut bien le dire, ma chère Julie, c'est pas folichon. Hein. Vous pouvez en croire un ancien combattant de la météo. D'ailleurs, vous pouvez m'appeler lieutenant-colonel Caprol, hein, le poilu des anticyclones.
Ça va rester ça.
Si vous voulez, ça me gêne pas. Au point où j'en suis. Alors oui, il pleuvait effectivement pour la visite du cimetière de Bois Bello. Du coup, Trump n'a pas pu y aller. C'est vrai que ce Bois Bello, ça a toujours été un coin pluvieux. Hein, autant le dire nos auditeurs. Vous savez, la guerre, c'est comme Disneyland, c'est plus sympa quand il fait beau. Cela dit, j'ai écouté la matinale, j'ai noté l'augmentation de 25% des ventes de vin bio. Hein, on nous avait indiqué un magnifique reportage de Stéphane Place il y a quelques minutes. Alors écoutez, s'il faut lever le coude pour sauver la planète, hein, mais je pense que je peux finir ministre de l'écologie.
Merci Laurent Cabrol. Parlons donc de ces cérémonies du centenaire de l'armistice. Il a tout regardé avec son œil de président, c'est François Hollande. Bonjour monsieur Hollande.
Bonjour.
Alors, où j'en suis ? Comment avez-vous trouvé
cette série ? Je vous appelle moi. À la ligne Maginot, ma chère Julie. Oh.
Comment avez-vous trouvé ces cérémonies, monsieur Hollande ?
Nul.
Oula.
Nul. Ben écoutez, monsieur Cabrol peut en témoigner. Déjà, au niveau météo, Macron n'est pas meilleur que moi. Hein, et puis, il flottait. Et puis, niveau ambiance, zéro pointé. 80 chefs d'État qui ont écouté du violon sous la flotte par 4 degrés. Et je peux vous dire que, on a vu les images, c'était pas le carnaval de Rio sur place. Hein. Et finalement, c'est un échec. Ils ne reviendront plus, ces chefs d'État. Hein, ils se sont tapés 134 Marseillaises, 27 boléros de Ravel. C'est d'un chien.
Un mot sur ces quatre personnes interpellées qui prévoyaient de poignarder Emmanuel Macron.
Poignarder Emmanuel Macron, c'est quand même, vous en conviendrez, la marque d'un certain mécontentement. Quand vous voulez tuer quelqu'un, c'est qu'il vous a tout de même assez largement déçu. Moi, président, monsieur Apathy peut en témoigner, j'inspirais le rire, j'inspirais la pitié, mais jamais on n'a voulu me tuer.
Même pas dans votre vie privée, personne, non? Non, personne?
Hein? Qui vous pensez?
Je sais pas, moi.
Oui, Valérie Trierweiler, oui, pardon. C'est vrai, autant pour moi, j'avais oublié la folle. Il y a un point pour vous.
Bon, allez, c'est bon, allez, on va arrêter là. Merci, merci, monsieur Hollande. On va passer de la Grande Guerre à la Grande Roue avec celui qui sera peut-être notre futur maire de Paris, Marcel Campion.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces cérémonies du centenaire, vous ?
Bon, écoutez, c'était pas mal. Ça manquait de pommes d'amour, d'auto-tamponneuses, de barbe à papa et puis de stands qui clignotent parce que faut pas oublier que finalement, 14-18, les gars, c'était un petit peu tout de même les inventeurs de la fête foraine, qu'on le veuille ou non. Hein, le tir au pigeon, le tir au canard, c'était les pauvres troufions qui faisaient les canards en plastoc. Mais était le même. Ah, ben écoutez, qu'on le veuille ou non, le principe était le même.
S'il vous plaît. Écoutez, on a vu des images des combats, des tranchées. Quelle est l'image qui vous a le plus choqué, vous, alors ?
L'image la plus horrible, c'est sans hésiter l'image de ces deux chefs d'État homosexuels qui se tenaient la paluche en pleine rue, franchement.
Bah, attendez, de qui vous parlez, là ?
Des deux tafioles, qui s'appelaient Kohl et Mitterrand.
Ils n'étaient pas homosexuels, arrêtez. Et puis, quand bien même. On s'en fiche, nous, de la sexualité du président. On veut qu'il soit bon, point. Faut arrêter avec vos propos homophobes, monsieur Campion.
Bah non, mais écoutez, je suis pas homophobe, j'ai un ami coiffeur.
Magnifique. Bon, forcément. Hein, voilà.
Bon, pardon. Bouquet, c'est la grande roue qui tourne.
Emmanuel Macron a terminé son itinérance mémorielle. Bonjour, monsieur le président.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux poilus, bien aussi aux épilés. Oui, vous l'avez dit, j'ai terminé mon itinérance mémorielle. Et je regrette déjà ce moment, car oui, j'ai aimé être au contact, je l'ai dit, je le redis, au contact des Français tout au long de ce chouinage existentiel. Car ils ont chouiné beaucoup. On n'a pas de sous, on n'a pas de travail, nous n'avons pas d'essence.
Oui, et puis il y a aussi tous ces Français qui vous ont pris à partie, voire insulté par moments.
Oui, lors de cette itinérance mémorielle, c'était la partie itinérance excrémentielle. Oui, on m'a uriné dessus, monsieur Cabrol, en permanence. Mais vous avez vu, je n'ai pas bronché, je n'ai insulté personne, car j'ai pensé sans cesse aux poilus. Je me suis dit, par rapport à ce qu'ils ont vécu, dans les tranchées, dans la boue, tu as beaucoup de chance, Emmanuel.
Bah oui, c'était le but de ce voyage, se dire qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui de vivre dans un pays en paix.
Mais tout à fait, mais tout à fait. Et quand je suis rentré à la capitale, j'étais un homme nouveau. Je me suis dit, plus jamais ça.
La guerre ?
Non, passer 6 jours au milieu des ploucs, plus jamais ça.
Non, écoutez, pour finir un mot de votre grand discours au Forum de la paix.
Oui, car ne l'oublions pas, la paix. La paix, nous devons nous battre corps et ongles, corps et âme pour elle. La paix, c'est bien, Madame Julie. Et la guerre, non. Non, il ne faut pas la guerre, c'est mal. Il faut le dire, le répéter à nos jeunes. Non à la guerre, vive la paix. Moi, je suis pour la paix dans le monde. Et je suis
Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Écoutez, j'entendais votre discours. Je me disais, quel formidable candidat pour l'élection de Miss France. La guerre, c'est mal. La paix, c'est bien. Les dauphins, c'est chouette. Écoutez, si vous êtes viré en 2022 chez Emmanuel Macron, présentez-vous, chez Emmanuel, à Miss Touquet. C'est un rêve d'être devenir Miss Touquet. La fameuse Miss Touquet.
La Miss Touquet. Merci Jean-Pierre Foucault.
Je vous en prie.
C'est une des images qui va rester de ces cérémonies. Trois femmes ont réussi à tromper la surveillance des policiers, à se placer au milieu du cortège de Donald Trump. On va accueillir notre ancien ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérard Collomb.
Oui, bonjour à votre brigade de la matinale.
Alors c'est un échec. Comment est-ce possible que ces militantes aient réussi leur coup comme ça, à franchir la sécurité?
Pourquoi ont-elles réussi leur coup? Parce que, à l'évidence, je ne suis plus aux affaires. Et tout de suite, c'est le bordel. C'est... Mais écoutez, franchement, quand il fait ses couillons, ils ont surveillé les black box, ils ont surveillé les casseurs. mais ils n'ont pas surveillé ces demoiselles topless. Il est tellement benet, ce Castaner. Il a dû se dire, tiens, des demoiselles topless, 11 novembre, c'est étrange. Paris plage est pourtant fermée. Et le temps qu'il réalise, eh bien, c'était trop tard.
Ouais, enfin, ça fait pas sérieux. Hein. Donald Trump va encore se moquer de nous. Et voilà.
Au contraire. Pardonnez-moi, mais c'est une très bonne nouvelle pour le président Trump.
Ah bon, comment ça?
Mais écoutez, je pense qu'il va pouvoir dire à son épouse Mélania, tu vois, chérie, avec Stormy Daniel, c'était pareil, je n'ai rien fait. C'est elle qui s'est jetée sur moi seins nus.
Ah, d'accord. Voilà. Merci Gérard Collomb. Allez, pour terminer, parlons de la victoire de Francis Joyon. C'est lui qui a remporté la route du Rhum face à François Gabart. On est en duplex avec la Guadeloupe. Bonjour Nelson Montfort.
Ouais, tu vois, Nelson? Francis, finalement, il y avait du rhum sur cette route du rhum, tu vois, ça tangue.
Nelson Montfort, on vous entend là. Hein.
J'ai mon collier de fleurs qui me gratte les tétons. C'est quoi ces fleurs?
Montfort, vous êtes sur Europe 1 là.
J'entends Francis, j'entends des voix, j'ai l'impression qu'il y a Arlette Chabot qui me parle dans le casque. Attends.
Non, c'est pas Arlette Chabot, c'est Julie, on est sur Europe 1, Nelson. Alors, c'est donc Francis Joyon qui l'emporte. Il paraît que François Gabart a eu un nombre d'avaries particulièrement élevé pour une route du Rhum, le pauvre.
Oui, pardonnez-moi, ma chère Julie, écoutez, il a tout à fait des avaries nombreuses. Il a, lors de cette transat, crevé 3 pneus, il a cassé 2 moteurs, un joint de culasse pété.
Non, mais enfin, non. Nelson, est venu en bateau.
Non, mais arrêtez de crier, ma chère Julie, je suis un pro. Je suis venu ici pour fêter la victoire de Francis Joyon, et croyez-moi, je n'ai jamais autant fêté quoi que ce soit. Je veux bien tout donner pour mon travail, mais en échange, s'il vous plaît, ne criez pas dans le micro, s'il vous plaît. Maintenant, quelqu'un peut-il me passer une aspirine?
Merci à Nicolas Canteloup, à Julie et aux auteurs, bien sûr, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. C'est le tour de la question qui arrive tous les matins, 9h, 11h, avec vous, François Claus. Ça va, François?
Oui, très bien. Wendy qui prend un repos très mérité après avoir animé la spéciale autour des cérémonies hier sur la place de l'Étoile à Paris. Le tour de la question va revenir sur cette information qui nous a tous surpris. Le Premier ministre, vendredi matin, message Facebook, nous annonce qu'il y a une augmentation de 70% des actes antisémites en France au cours des 9 premiers mois de l'année. Réalité du phénomène, débat. Nous serons là avec nos invités et bien sûr vos témoignages. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que vous vivez dans vos quartiers? Nous vous attendons au 39-21, le tour de la question dans quelques instants.
Merci François.
Et la météo arrive avec Laurent Cabrol dans un instant. Il est 8h54.
Europe 1.
Il est 8h58 à suivre l'essentiel de la matinale avec vous, Pierre de Villeneuve, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Comment est-ce qu'on s'habille, mon cher Laurent?
Ah, ça c'est une question que vous me posez régulièrement.
Question piège.
Eh bien, à cette heure-ci, précisément.
L'impair passe et gagne.
Parce que là, mieux vous, hein.
Il faut vraiment de l'impair aujourd'hui. Nous avons, pour ceux qui aiment jouer, eh ben vous êtes sûr de gagner. L'impair passe et gagne sur le Nord, la Picardie, les Ardennes, la région parisienne, l'Eure, la Sarthe, la Vallée de la Loire, la Normandie et le Poitou-Charentes. Des régions où il pleuvra une grande partie de la journée, y compris sur la capitale. Il est déjà tombé 20 litres d'eau au mètre carré en l'espace de 24 heures. Sur le Limousin, le centre, sur la Champagne et la Lorraine, il pleuvra surtout cet après-midi car la dépression se déplace un petit peu, ou la perturbation. Vous regardons maintenant les Vosges, le Dijonais, l'Auvergne et le littoral de la Manche où nous aurons des averses orageuses. Un petit coup d'œil, tiens, des éclaircies sur le Midi-Pyrénées, sur Rhône-Alpes, sur la ville de Lyon, sur la Franche-Comté, la plaine d'Alsace qui sont privilégiées. Et puis sur le bassin méditerranéen, nous aurons des pluies cévenoles, des températures entre 12 et 20 degrés.
Merci Laurent Cabrol.
Nous sommes le lundi 12 novembre. Nous revenons sur les moments forts de cette matinale, Pierre de Villeneuve.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il fallait pas rater, il a franchi cette nuit la ligne d'arrivée avec 7 jours, 14h, 21 minutes. Le navigateur Francis Joyon remporte la route du Rhum. C'est un signe et signe un nouveau record à 62 ans. Une victoire arrachée dans les derniers 1000 à François Gabart, pourtant en tête quasiment jusqu'à la fin de la course. Un duel de folie que Francis Joyon nous racontait ce matin à 7h45.
Alors, bah, c'est vrai que c'était une course vraiment intense et se donner à fond du début à la fin, pas dormir, manœuvrer tout le temps, affronter le mauvais temps.
7 jours, 14h, 21 minutes, vous portez ce nouveau record inscrit dans l'histoire, j'imagine que vous êtes fier.
Oui, moi j'aime bien les records, donc ça fait un de plus, voilà. J'avais été second comme meilleur plat, il était temps de faire premier.
On n'en a pas assez fait, ce sont les termes employés hier par le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Il a donc reconnu officiellement les manquements de la municipalité au sujet de l'habitat insalubre une semaine après les effondrements d'immeubles qui ont fait 8 morts. Situation politique inacceptable pour Jean-Michel Apathy. C'était à 7h40.
Il y a plus de 3 ans, un rapport explique que 40 000 logements sont insalubres à Marseille. Un habitant sur 8 à Marseille vit en danger. Ce rapport date de mai 2015. Jean-Claude Gaudin est maire depuis mars 1995. Le rapport montre que pendant 20 ans, la situation ne s'est pas arrangée, donc elle s'est détériorée. Ce matin, on ne peut qu'être que d'accord avec les manifestants qui samedi étaient sous la fenêtre de la mairie. Gaudin démission, ils ont raison.
Y aura-t-il un blocage généralisé du pays samedi prochain avec les gilets jaunes? Question qui inquiète le gouvernement. Réponse de Benjamin Griveaux. Il était l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15.
J'entends la colère de certains Français qui le font avec sincérité parce que c'est galère d'aller bosser quand on est à 30 ou 40 km de son boulot et d'avoir des prix à la pompe qui augmentent. On le conçoit parfaitement bien puisque le président de la République, à ce micro, il y a une semaine, a dit que nous allions y travailler à des mécanismes qui permettent d'accompagner les plus modestes d'entre nous. Nous, on s'occupe des Français pour qui c'est difficile d'aller bosser le matin et auxquels nous allons proposer des solutions dès cette semaine.
Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Voilà donc pour l'essentiel de la matinale. Merci à tous. Merci à toute l'équipe du 7-9. Je vous retrouve demain.